Europe Soir, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans les débats d'Europe Soir sur le format de Punchline. Vous connaissez la recette avec ce soir une phrase dans l'articulation d'une interview, sait-on, peut-être dans la précipitation. Mais le résultat est que cette phrase, elle choque, elle déconcerte même. C'est Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la Conférence des évêques de France, qui la prononce en disant que le secret de la confession est hiérarchiquement plus important que les lois de la République. On parlait là de ces 216 000 personnes à ce jour identifiées qui, alors qu'elles étaient mineures et étaient victimes de prêtres pédophiles. La phrase est à ce point choquante qu'elle donne lieu à une convocation, idem beaucoup de nuances sur ce terme depuis, en tout cas un rendez-vous fermement fixé le 12 mardi prochain, place Beauvau, dans le bureau de Gérald Darmanin. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, dans une interview enregistrée par LCI qui sera diffusée ce soir après 20h, Éric Dupond-Moretti annonce que les prêtres ont l'obligation impérieuse d'alerter. Et s'ils ne le font pas, alors ils doivent être condamnés. Ça s'appelle non-empêchement de crime ou de délit. C'est ce que précise le ministre de la Justice. Alors comment interpréter ces déclarations, sachant que celui qui peut décider pour l'Église, c'est le pape au Vatican. Nous réécouterons attentivement Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui clairement dit en fin d'interview qu'il attend la feuille de route pour aider les prêtres à adopter la meilleure démarche à suivre. Le secret de la confession, aussi impénétrable que le secret médical, c'est le thème de notre première discussion. Après une messe à Paris, il n'y a pas de rapport, après une messe à Paris, un hommage au Vélodrome, c'était aujourd'hui le troisième jour de cérémonie pour Bernard Tapie. Et quelle cérémonie! À l'occasion de ses obsèques, une cathédrale de la Major à Marseille au complet, un parterre de Marseillais juste devant, un service d'ordre au taquet, les chaînes d'infos n'ont diffusé que ça, en continu, la messe en entier, le flux de la cérémonie, c'est tout ce qu'il y avait, comme si aucune autre actualité n'existait, comme si les obsèques de Bernard Tapie, mort dimanche dernier, écraseraient le reste des programmes d'actualité. Et pourtant, ce n'était pas des obsèques nationales, ce n'était pas un hommage national, c'était Bernard Tapie, le show Tapie jusqu'au bout, avec la musique de We Are The Champions. Est-ce qu'on n'en fait pas trop? D'ailleurs, en le disant, est-ce que moi-même, j'en fais pas un peu trop? On se pose la question tout à l'heure après le journal à 19h15. Et puis, dernier sujet de débat, également après le journal, à quoi joue Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre plus présent que jamais? Il lance son parti demain officiellement. Certains le voient en coéquipier d'Emmanuel Macron à la tête de ce grand parti nécessaire au président sortant en cas de réélection. D'autres le voient carrément en président de l'Assemblée, là aussi en mode coéquipier, mais avec des pouvoirs suffisamment importants pour faire un vrai duo avec l'exécutif. Et puis cette perspective de 2027, est-ce qu'elle tient bien la route? Il peut tout se passer d'ici 2027. De tous ces thèmes, on en parle jusqu'à 20h avec l'ancien magistrat Georges Fenech. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec Maxime Yedo, journaliste, essayiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec Isabelle Florenne. Bonsoir.
Bonsoir.
Député MoDem des Hauts-de-Seine. Et avec Patrick Aram. Bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président de Libre et vice-président de la région Île-de-France. À signaler dans l'actualité également, il ne me reste plus beaucoup de temps, alors juste les prix Nobel de la paix qui ont été décernés à deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov. Il est 18h sur Europe 1. Merci d'être là si vous nous rejoignez.
Europe Soir Weekend, 18h, 20h.
Pierre de Villeneuve.
Et donc notre premier sujet de discussion, c'est le secret de la confession. Secret absolu, de nature à surpasser les lois de la République, spécialement dans les cas d'abus sexuels sur mineurs. La bombe est lâchée. Nous sommes mercredi dernier, le 6, sur France Info. Et il est un peu plus de 8h30.
Est-ce que la confession s'impose à nous et il s'imposera?
Et elle est plus forte que les lois de la République.
Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Maintenant, il faut que nous voyons, parce qu'il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu.
Voilà donc cette comparaison qui ouvre le débat. Quelques secondes plus tard, le président de la Conférence des évêques de France précise son argumentation. Il attend la feuille de route pour que les prêtres soient mieux accompagnés s'il faut alerter.
Les violences sexuelles ne sont pas un problème de chasteté, c'est un problème d'atteinte à la vie, c'est un problème de crime, de meurtre. Et ça, symboliquement au moins. Et c'est très important, il est très important de le voir.
Voilà, tout ça à travers la CIAZ, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Nous voilà donc devant 216 000 victimes qui entendent bien sûr ces propos, puisqu'on en parle. Je le disais en introduction, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va s'entretenir mardi avec Monseigneur de Moulin-Beaufort. Mais entre-temps, le gouvernement s'est déjà exprimé par son porte-parole Gabriel Attal qui a rappelé qu'il n'y avait rien au-dessus des lois de la République. Et ce soir, dans une interview de Darius Rochebain sur LCI, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, réagit lui aussi.
Il n'y a pas d'autre loi que celle de la République dans la République. Il faut être clair. Il n'y a pas de loi de l'Église dans la République.
Donc l'obligation de dénoncer est intégrale.
Alors, je vais vous dire en droit comment les choses se présentent. Si un prêtre reçoit, dans le cadre de la confession, soit d'une victime, soit d'un auteur, la connaissance de l'existence de faits qui se déroulent, c'est le gamin qui dit au prêtre « je suis victime en ce moment, tous les mercredis, d'un viol de la part d'eux ». Alors, il a l'impérieuse obligation de mettre un terme à ces faits.
Et s'il ne le fait pas, il peut être condamné.
Il doit l'être. Ça s'appelle non-empêchement de crime ou de délit. S'agissant du secret professionnel, il n'est pas absolu, comme d'ailleurs le secret médical en la matière. Et si le prêtre reçoit la confidence, soit par une victime, soit par un auteur, de faits qui seraient prescrits, ou qui à tout le moins seraient des faits passés, alors il n'est pas tenu par le secret professionnel. Comme le médecin.
Voilà donc cette interview à retrouver en long à partir de 20h30 sur LCI avec Darius Rochebain. J'ai envie de vous entendre tous, bien évidemment, mais d'abord peut-être nous avons la chance d'avoir un ancien magistrat parmi nous. Quand Éric Dupond-Moretti prend la parole ce soir, c'est sur un sujet grave, évidemment, terrible.
Bien sûr, d'abord c'est un fléau qui touche non seulement l'Église catholique, hein, mais j'ai rencontré ce fléau moi aussi dans d'autres organisations, je pense à des sectes, hein, entre autres, mais milieu familial, l'école, qui sont aussi des lieux où se produit malheureusement des faits de pédocriminalité,
oui,
hein, qui est le terme à employer, oui, non pas de pédophilie. Hein. Je partage l'analyse qui est faite par le garde des Sceaux. Le droit, il nous dit quoi ? Le droit nous dit qu'il y a un secret professionnel.
Mmh.
Avocat, médecin. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'est pas dans la loi, le secret de la confession.
Hein.
C'est une construction jurisprudentielle de la Cour de cassation.
Elle relève du Vatican, apparemment.
Non, de la Cour de cassation aussi, bien sûr. Il y a le droit canonique, hein, qui prévoit même l'excommunication d'un clerc s'il viole son secret.
Bah, en tout cas, celui qui pourrait lever le secret de la confession, j'allais dire urbi et orbi, mais en tout cas, dans le monde entier, c'est le pape. Voilà.
Oui, mais il ne reviendra pas là-dessus. Le secret de la confession, c'est inhérent, voilà, véritablement à la religion. Mais pour autant, la Cour de cassation a assimilé, quelque part, le secret confessionnel au secret professionnel, statutaire.
Voilà. Ce qui est prévu en France.
Voilà. Alors, une fois qu'on a dit cela, le secret n'est absolu pour aucun détenteur du secret professionnel. Aucun. Que ce soit l'avocat, que ce soit le médecin, et a fortiori, le prêtre. Dès lors qu'il reçoit des informations sur des crimes, notamment sur des mineurs, peu importe l'âge d'ailleurs, aujourd'hui, peu importe l'âge, des crimes sexuels, il est autorisé, voire obligé de dénoncer ces faits à l'autorité judiciaire ou administrative. Donc ça, c'est une loi qui doit s'appliquer à tous les détenteurs de secrets, qu'ils soient laïcs ou qu'ils viennent du clergé, voyez-vous. Donc la réaction sans doute maladroite de l'évêque devra être rectifiée, bien entendu, dans ce sens-là, car là, il est évident que aucune loi n'est supérieure aux lois de la République et que nous vivons dans un régime d'ailleurs de séparation des Églises et de l'État.
Patrick Aram.
En tant que chrétien, je suis vraiment choqué. Choqué par ce discours. Choqué par ce discours parce qu'il intervient à quel moment ? Au lendemain de la remise du rapport Sauvé. Souvenez-vous, on parlait des viols d'enfants dans l'Église et à l'époque, avant ce rapport Sauvé, on disait 10 000 personnes.
Jean-Marc Sauvé, hein, qui est l'auteur de ce rapport.
L'ancien vice-président du Conseil d'État, on disait quelques dizaines de milliers de personnes. Et là, c'est une bombe. C'est 216 000 mineurs en 70 personnes, dont 84% sont des mineurs, mais c'est 330 000 personnes, si on inclut des laïcs rattachés à l'Église catholique.
Exactement.
Qui ont agi dans le cadre d'une mission pour le compte de l'Église catholique. On ne peut pas tenir ce discours-là avec ces chiffres-là. Là, pour le coup, je le dis de manière très claire, l'Église est en train aujourd'hui de rentrer dans un cycle de perdition. Ça choque les croyants, ça choque également tous les Français. Tous les Français, d'ailleurs l'impact est mondial, puisque le pape lui-même s'en était mieux. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire aux musulmans, vous devez placer votre foi sous la loi. La loi doit être au-dessus de la foi, et que pour les chrétiens, on puisse avoir une autre analyse. La loi, d'abord, et la foi, ensuite. Mmh. C'est ça la République, mmh, et c'est ça les règles qui doivent s'imposer à tous.
Isabelle Florenne.
Oui, moi je partage absolument ce qui vient d'être dit par Georges Feguenec et Patrick Karam. Je suis heureuse d'entendre les paroles du garde des Sceaux ce soir, parce que, évidemment, c'est choquant de laisser entendre, au moment où nous avons voté quand même et fait adopter en juillet une loi pour lutter contre les séparatismes. Faut pas faire de distinction. La loi de la République, elle doit aussi s'attacher à protéger. Et là, on a bien un cas énorme avec cette révélation et ces révélations de ce rapport qui font que l'Église, en tout cas, doit réagir et que là, on est à un point
d'ailleurs
de non-retour quand même sur ces réactions. Je voulais juste ajouter une chose, parce que je viens de lire ça ce soir, et ça me semble intéressant. La communauté laïque, les influenceurs maintenant laïques qui utilisent les réseaux sociaux, sont en train de bouger et dire on ne peut pas accepter ce qui s'est passé. Et on doit bouger, et l'épiscopat français doit réagir et doit se saisir des révélations de ce rapport. Je suis heureuse de voir que les laïcs qui sont concernés et qui veulent que l'Église catholique et les chrétiens puissent continuer à prospérer, ou en tout cas l'Église à évoluer, poussent cela. Je trouve ça intéressant. J'ai lu ça sur les réseaux sociaux et je crois que c'est aussi important de voir qu'il y a une réaction au sein de l'Église via les laïcs qui sont partie prenante aussi de cette évolution de l'Église.
Surtout que Mgr de Moulin-Beaufort, a priori, a été justement interviewé chez nos confrères de France Info parce qu'il y avait ce rapport, justement.
Absolument.
Donc, il fallait être précautionneux.
Mais il fallait avoir une parole forte, comme l'a eu le pape.
Une parole forte. Alors, ce que je vous propose de faire, et je vous donnerai la parole juste après, Maxime Yedo, c'est on va entendre le début du questionnement. Et on ne peut pas s'empêcher, et je ne me fais aucunement l'avocat de Mgr Moulin-Beaufort, on ne peut pas s'empêcher de se dire que peut-être qu'il pensait au secret, comment dirais-je, de la confession, d'une manière générale, et peut-être pas forcément spécifiquement pour cette question. Là, on écoute.
Alors, la confession doit rester secrète, le secret de la confession restera parce que ça ouvre un espace de parole libre.
Même pour ces sujets-là ?
Il faut que nous regardions de très près la recommandation de la recommandation de la CIAS, qui est assez précise, assez subtile, assez nuancée.
C'est-à-dire que la confession n'obéit pas aux lois françaises. C'est un endroit où ce qui se dit, normalement, il y a une obligation. Si je dis à ce micro, Monseigneur, j'ai été victime ou témoin de quelque chose, vous avez le devoir d'aller voir un policier ou un gendarme. Ce que vous dites, c'est que le secret de la confession, aujourd'hui, est plus fort que les lois de la République.
Est-ce que la confession s'impose à nous et il s'imposera
et elle est plus forte que les lois de la République.
Et en ce sens-là, il est plus fort que les lois de la République. Maintenant, il faut que nous voyions, parce qu'il ouvre un espace de parole libre qui se fait devant Dieu.
Voilà, ça dure une demi-seconde. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, et c'est ce qu'on disait, Isabelle Florenne, c'est-à-dire que c'est là où il aurait fallu réagir.
Absolument.
Peut-être d'une autre manière.
Moi, je pense, juste le jour ou le lendemain de la sortie de ce rapport, on attendait autre chose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas autre chose. J'ai lu, comme tout le monde, ce qui se dit. Je sais qu'il y a des choses qui avancent. On sait que le diocèse de Paris, par exemple, travaille maintenant sur des conventions avec le procureur de la République et qu'il y a des choses qui doivent se faire, c'est préconisé dans le rapport. Maintenant, la parole du président de la conférence des évêques en ce moment précis,
qui dit
cette semaine...
Le secret de la confession s'impose à nous. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une charte de plomb, un plafond de verre.
C'est comme si on lave le linge sale en famille. C'est ça le problème. C'est qu'on a ça dans d'autres milieux. On a ça dans le milieu du sport, on a ça dans d'autres secteurs. Et ça n'est absolument pas possible. Justement, quand même... L'Église catholique est en proie à des turbulences. Il n'y a plus de vocation, il n'y a plus de prêtres. Il y a très peu aujourd'hui de vocations religieuses. Et puis, vous avez la base des croyants reproche aujourd'hui à la hiérarchie, aux évêques, de trahir l'Église. Vous avez ce débat-là qui est ancré. Alors, on ne l'entend pas publiquement. Mais je pense que sa parole, cette parole-là et ce rapport-là ne va pas apaiser la situation entre la base et la hiérarchie.
On n'a pas entendu Maxime Yedo sur le sujet, pardon.
Non, mais je pense sincèrement qu'il y a plusieurs choses, parce que c'est un sujet éminemment complexe, comme l'a très bien rappelé Georges Fenech. En effet, c'est une décision de la Cour de cassation qui date de 1810, et la jurisprudence est constante. Le secret de la confession est au même niveau, en effet, que le secret professionnel ou le secret médical. Donc ça, c'est la première chose. Mais en 2004, il y a une circulaire qui dit que le ministère des Cultes fait une faute s'il trahit le secret, mais que, en quelque sorte, ce secret peut être trahi en fonction de certains éléments, dont les abus sexuels. Donc voilà, une fois qu'on a rappelé ce cadre, il n'y a pas tellement de discussion à avoir, le cadre est posé, il suffit, je pense, de le connaître et d'en avoir la nuance pour le comprendre. Maintenant, à mon sens, c'est un faux sujet. Parce que la confession ici, ce n'est même pas le problème. Parce que ce que révèle ce rapport, c'est pas que des prêtres ont été alertés dans le cadre de la confession et qu'ils n'ont pas parlé. C'est qu'il y a tout un système. Et il y avait un excellent papier de Lacroix qui expliquait d'ailleurs pourquoi le mot systémique, éventuellement, dans ce domaine-là, pouvait être utilisé. Parce que c'est bien le sujet. Il ne s'agit pas de quelques confidences qui ne sont pas sorties.
Qui sont de moins en moins nombreuses, d'ailleurs, avec le
exactement,
temps.
Exactement. Il s'agit réellement de... Il s'agit évidemment de comportements qui ont été déviants, qui étaient connus et qui n'ont pas été dénoncés. Il y a même le rapport de certains de ces événements dans certains rapports de diocèse qui ne sont pas exposés au public, etc. Donc qu'on parle et qu'on fasse un véritable sujet autour du secret de la confession, pourquoi pas, très bien. Mais dans le cadre précis, et si on revient à l'actualité de ce début de semaine qui était le rapport Sauvé, il ne s'agit pas de ça, il s'agit réellement de comment l'Église, en dehors du secret de la confession, dans un domaine, on va dire, totalement public et de connaissance absolue, a décidé de cacher ce qu'on peut quand même largement appeler des failles.
Georges Fenech.
Écoutez, moi je me souviens, je crois que c'était en 2011, je présidais à l'époque la Miviludes, hein, sur les dérives sectaires, et nous avions mis à jour des actes pédophiles très graves dans une communauté qui était la communauté des Béatitudes, qui dépend de l'Église catholique et de statut d'association pontificale. Et à l'époque, la conférence des évêques avait pris des mesures, avait mis en place une structure au sein de la conférence des évêques, justement, pour veiller à ce que ça ne se produise pas et mettre des mécanismes en place de révélation. Je suis étonné que 10 ans plus tard, finalement, j'ai le sentiment que ces instruments ne fonctionnent pas véritablement. Et d'ailleurs, l'affaire, souvenez-vous, la douloureuse affaire qui mettait en cause Mgr Barbarin, qui lui-même avait manqué de réactivité, il a été relaxé in fine, mais bon, on voit bien qu'il y a encore, je pense qu'il y a un grand sujet de pédagogie, de formation du monde ecclésiastique sur ce qu'est la loi et ce que doit être le comportement d'un ecclésiastique par rapport, que ce soit dans le domaine de la confession, qui est effectivement très marginal en réalité, mais d'une manière générale, dans les comportements des ecclésiastiques par rapport à ces actes, il faut avancer par des structures qui puissent veiller à ce que ça ne se produise pas ou que ce soit dénoncé dès lors que quelqu'un, une autorité, la prenne.
Une première pause dans les débats d'Europe Soir et on revient dans un instant avec Georges Fenech, Maxime Yedo, Isabelle Florenne et Patrick Karam. Restez avec nous.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneau.
Avec autour de la table jusqu'à 20h, l'ancien magistrat Georges Fenech, l'essayiste Maxime Yedo, la députée MoDem des Hauts-de-Seine Isabelle Florenne et le vice-président de la région Île-de-France, vice-président de Libre, Patrick Karam. À l'instant, on parlait justement de ces avancées qu'on attend encore dans l'Église catholique. C'est Georges Fenech qui rappelait à juste titre que pour... également pour les sectes et pour les religions, on attendait des avancées. Et en tout cas, pour l'Église catholique, on avait alerté plusieurs fois. Patrick Karam, vous vouliez prendre la parole justement sur le fait que c'est pas la première fois qu'il y a une alerte de ce genre.
Et je veux aussi dire que il faut se poser les bonnes questions sur cette affaire-là, parce que vous avez une immense majorité de prêtres qui, eux, aujourd'hui, se sentent salis. Il faut l'entendre. Ils se sentent aujourd'hui trahis. Certains d'entre eux peuvent vouloir remettre en question leur sacerdoce, c'est-à-dire leur engagement au sein de l'Église catholique.
Ça s'est déjà passé. Hein,
et ça s'est déjà passé dans le passé, parce qu'il y a une affaire qui va finalement faire une sorte d'amalgame, tous pédophiles.
Il y a eu notamment l'affaire du Boston Globe aux États-Unis, hein, qui a créé un
phénomène de rejet. Mais je veux, donc, une fois ça dit, je veux qu'on pense aux victimes. Parce que c'est vrai, on a parlé de techniques juridiques, la loi est avant la foi, oui, mais la question est d'abord humaine. Vous voyez, c'est vie brisée. Et j'ai eu, moi, dans mon métier, à avoir en audition des personnes qui, à 25 ans, 30 ans, revenaient d'une sorte d'amnésie traumatique et qui font d'un seul coup qui s'aperçoivent que dans leur enfance, ils ont été violés. Ça entraîne des tentatives de suicide, c'est des vies brisées, c'est des hommes et des femmes qui jamais, jamais ne seront, ne reviendront dans un parcours normal pour l'immense, pour beaucoup d'entre eux, si vous voulez. C'est une vie effroyable, une vie brisée. Donc là-dessus, la hiérarchie dont on a le sentiment qu'elle savait et qu'elle n'a pas voulu voir, qu'elle n'a pas voulu faire, devrait peut-être balayer devant sa porte. Et un deuxième élément qu'il faut aussi avoir en tête, on a, je veux dire, les lois des proportions. On a l'Église catholique aujourd'hui touchée, mais il y a d'autres religions. Il y a d'autres religions qui peuvent être concernées. Il faudrait qu'il y ait une enquête sur les autres religions. Et que sur ce type de communard, j'allais dire quasiment forcé, eh bien qu'on puisse l'avoir pour la religion musulmane, pour la religion juive, chez les protestants et partout.
Mais pour ça, il faut des signalements.
Mais il y a des signalements. Et de la même façon que chez les catholiques, ces signalements-là, on ne veut pas le dire, on ne veut pas le voir. Et parfois même, les parents eux-mêmes ne le croient pas. Parce que s'aperçoit que dans ces affaires, lorsque les enfants rentrent chez eux, et que parfois, au détour d'une phrase, avant de dormir ou pendant la douche, quelques phrases sont lâchées, les parents n'écoutent pas. On le sait pour le sport, on le sait dans ce secteur-là. Il faut qu'il y ait peut-être que l'État prenne l'initiative d'une vaste enquête sur ce sujet.
Maxime Biedo. Non, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit parce que en effet, il y a le cadre de l'Église, le cadre strict de l'Église où on dénombre, c'est ça, un nombre 2500 ou un peu plus d'enfants, c'est considérable et on atteint 320 000, je crois que c'est ça, si on ajoute les activités
216
annexes.
216 000 selon le rapport.
216 000 et on peut monter jusqu'à 350, 330 000 exactement si on regarde les activités annexes, c'est-à-dire le sport, les colonies de vacances, etc. Donc ça, en effet, c'est un vrai sujet de préoccupation. Maintenant, pour revenir sur le secret de la confession, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va commencer à créer une loi pour dire que le secret de la confession doit être vidé de sa substance pour obliger les gens, en quelque sorte, à ceux qui recueillent certaines confessions de l'avouer? Non, c'est pas le sujet. Le rapport Sauvé doit en quelque sorte mettre l'Église à sa responsabilité. La loi ne doit pas intervenir dans ça. Ça doit être un travail interne. Et on a l'exemple allemand, ça date de 2018. Il y a eu un rapport universitaire sur les violences, en quelque sorte, au sein de l'Église catholique en Allemagne. Et on doit aller vers l'anti-Allemagne, parce que ce rapport est sorti. Ça a provoqué aussi un séisme, parce que le nombre était considérable. Mais on voit qu'aujourd'hui, la plupart des dossiers d'indemnisation n'ont pas avancé. On voit que des rapports qui devaient être publiés ou mis au grand public ou s'étaler dans la presse ne l'ont pas été par des raisons qu'on devine assez bien. Donc les questions à se poser, c'est celle-ci. Et je pense que l'hystérisation du débat qui, à mon sens, pas la plus percutante et la plus pertinente pour traiter cette affaire, doit
cesser. Vous trouvez qu'il y a une hystérisation du...
Mais oui, mais parce que vous voyez, ce type, ce monsieur a sans doute eu des propos très malheureux. On doit évidemment lui reprocher. On doit sans doute très rapidement baliser pour reprocher ce qui est la loi de ce qui ne l'est pas. C'est sans doute choquant, mais
Le président de la Conférence des évêques de France.
Il est sûr, par la parole. Et puis moi, je ne l'ai pas entendu revenir immédiatement dessus en disant « Excusez-moi, j'ai parlé trop vite et je m'excuse, etc. »
Mais bien sûr,
c'est ce qu'on attend de lui.
Mais
il représente tous les catholiques, il représente toute la hiérarchie.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que quand bien même il serait revenu sur les propos, une fois que tout le monde, pendant 2-3 jours, comme nous sommes en train de faire, a rappelé la base du secret de confession, dans quel cadre celui-ci doit être en quelque sorte... on doit passer au-dessus, on le sait, pour les problèmes d'abus sexuels, etc. On le sait maintenant, on doit sincèrement laisser faire, et pas comme on est en train de le faire Gérald Darmanin, convoquer ce monsieur pour lui rappeler ce qu'est la loi, etc. et faire un mélange des genres qui n'est pas très sain. Je pense que
il est
très
sain de laisser...
Le ministre des cultes,
mais bien sûr,
mais qu'est-ce qui va changer fondamentalement? Je pense que c'est à l'Église de faire sa tambouille.
Les deux, en général. Le ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, il se doit de rappeler, c'est une bonne chose, les règles et la loi, qu'il soit président des évêques ou...
Il n'est pas le seul, puisqu'on a entendu aussi Éric Dupond-Moretti.
Évidemment, et voilà. C'est bien qu'il y ait ce rendez-vous aussi, parce que je crois que là, par rapport au rapport Sauvé, maintenant, il s'agit de savoir ce qu'on fait. Ce qu'on fait, le rapport, et ce qui est intéressant
rapport,
dans le rapport...
Bien. Mais oui, voilà,
mais le rapport fait des préconisations.
Ouais. Dont l'indemnisation des victimes
Parlons-en
mais
tout de suite.
Mais il n'y a pas que ça.
Parlons-en de tout de suite de l'indemnisation. Parce que souvenez-vous quand même le tollé qu'il y a eu quand on a annoncé, suite à l'affaire en fait, c'est le père Prénat qui était la base
à Lyon,
à Lyon de ces violences sexuelles qui ont été effectivement mises sous couvert, on peut appeler ça comme ça, par le cardinal Barbarin qui n'a pas réagi tout de suite. Souvenez-vous quand même, quand on a proposé une indemnisation, les victimes étaient effarés. Les victimes ont crié au micro d'Europe 1 et sur toutes les caméras et les micros de France que ne voulait pas d'indemnisation, qui voulait au contraire que les choses avancent. Donc en attendant, l'indemnisation,
c'est pas forcément la finance. Ce qui est bien, c'est que justement les choses avancent.
J'allais dire risible par rapport à ce qu'attendent les victimes d'abus sexuels.
Non, mais la première avancée, ça a été quand même aussi ce rapport. Ça a été de prendre en compte et de rendre public ces affaires, ce nombre d'affaires qui est effarant quand même. Et maintenant, les préconisations, quelles sont les solutions à apporter, ça vaut le coup quand même d'en discuter. Évidemment, ça ne sera pas des lois. Ça peut passer par de l'indemnisation. Nous avons voté, je rappelle quand même, en avril dernier, une loi qui est intéressante sur les violences sexuelles faites aux mineurs, qui permet justement d'avancer sur les délais de prescription avec les prescriptions glissantes. Je ne vais pas rentrer dans de la technique juridique que certains ici maîtrisent mieux, mais ce sont des avancées justement pour la réparation des victimes, parce que derrière, il y a une réparation, elle peut être financière, mais elle doit être effectivement psychologique et morale. Ça veut dire aussi que l'Église, derrière, doit mieux travailler avec la communauté, avec des espaces de discussion, d'ouverture, de libération de la parole. Et puis, après, un travail différent. Je rappelle que les laïcs en font partie, que certaines expériences ont lieu et se font déjà dans un certain nombre d'évêchés, dans un certain nombre de communautés. Les choses avancent. Donc, il faut se baser aussi sur ces expériences, parce que, comme on dit et que le disait Patrick Karam, on ne peut pas mettre non plus toute la communauté et tous les prêtres et les laïcs dans le même sac. Certains font de très bonnes choses, avancent sur ces sujets, il faut les encourager.
Chiffres, puisqu'on parle de chiffres, puisque c'est notamment des instituts de sondage qui ont fait le décompte en interrogeant les gens, on était à 216 000 effectivement. Jean-Marc Sauvé, dans le Figaro de mercredi matin, dans l'interview, précise que l'institut de sondage évalue à 5,5 millions le nombre total des personnes vivantes en France qui ont été victimes de violences sexuelles dans tous les milieux sociaux alors qu'elles étaient mineures.
Bien sûr.
Georges Fenech.
Mais bien sûr que je vous dis, c'est un fléau. Mais sur les chiffres qu'on nous donne, qui sont effectivement issus de sondages en réalité, des proportions, de grandeur, en réalité, le rapport Sauvé nous dit qu'il y a 22 signalements sur les 200 ou 300 000, que 22 signalements possibles aujourd'hui.
Ouais.
Parce qu'il y a prescription, parce que les acteurs sont décédés, etc. Mais je crois que...
Ça pose la question de la prescription dans cette
aussi...
matière-là.
Mais c'est ce qu'annonce d'ailleurs Eric Dupond-Moretti, que lui a annoncé l'enquête à la fin de la prescription. Mais ça,
Là aussi, on a allongé les délais de prescription, puisque vous le savez que c'est de 30 ans à partir de
la
majorité, à partir de 18 ans. Là, j'ai 18 ans, donc moi jusqu'à 48 ans. Mais je crois qu'avant des questions, je dirais, bassement pécuniaires, d'indemnisation, etc.
Ça, c'est le système américain. On indemnise.
Victime, ce qu'elle veut d'abord, c'est d'être reconnue comme victime. Le statut de victime.
Exactement.
Qu'on reconnaisse sa souffrance. Et qui lui permet ensuite peut-être une reconstruction. Et ça passe évidemment peut-être par un arbitrage, je ne sais pas, mais ça passe aussi, quand les faits ne sont pas prescrits, par la justice qui, elle, sanctionne, reconnaît le statut de victime et accorde effectivement une réparation.
Alors, il y a deux choses. Pardon de revenir sur cette question-là, mais il y a deux choses. Il y a d'abord le fait de reconnaître qu'il y a une victime et que cette victime ne doit pas porter le poids de la culpabilité de ce qui lui est arrivé. Parce qu'on s'aperçoit aussi que quand on a été victime de violences sexuelles, on se le reproche. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Est-ce qu'on a fait de la provocation, etc. Et on vit avec ça. Ça aussi, c'est un sujet majeur. Il faut reconnaître que c'est une victime et qu'il y a en face un criminel, un bourreau.
Donc
ça, c'est le premier point. Deuxièmement, et c'est tout aussi important, il y a cette question d'indemnisation que l'Église ne voulait pas voir mettre sur la table. C'est le rapport Sauvé qui le met. L'Église voulait parler peut-être de compensation financière, etc. Un terme vague. S'il y a victime, c'est donc qu'il doit y avoir réparation. Réparation morale, mais réparation aussi pécuniaire, parce qu'il y a un préjudice. Ce que vous allez subir tout au long de votre vie. Vous n'allez pas faire les études que vous devez faire, vous n'allez pas avoir le travail que vous méritez, parce que justement, vous avez été traumatisé par ce qui vous est arrivé, et le reste de votre vie, ça vous poursuit. Et dernier point quand même, pour ceux qui sont encore vivants, et pour lesquels il n'y a pas de recours juridique, eh bien, je pense qu'une indemnisation, une réparation, c'est aussi un premier pas vers la reconnaissance du statut de victime et peut-être un premier pas vers la j'allais dire, une sorte de rédemption, même si ça ne jouera jamais
le rôle d'une procédure judiciaire. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir
que
l'Église catholique, dont il faut quand même saluer cet effort d'introspection et d'enquête qu'elle est à l'origine d'ailleurs, elle-même, de la commission Sauvé,
et
c'est très important.
Et l'élan vient d'ailleurs de Rome, puisque c'est absolument pape François qui a quand même beaucoup œuvré
je suis chrétien catho et pourtant je vais être assez sévère là-dessus, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de faits de violences sexuelles dans l'Église, parce qu'il y a eu des révélations et parce que l'Église à un moment donné voulait mettre un terme à tout ça en disant on va faire un vrai travail scientifique et on va savoir et on va quantifier, mais je pense que l'Église ne s'attendait pas à de telles révélations. Je vous dis, à l'époque on parlait de 10 000 personnes maximum et que ça n'irait pas au-delà en 70 ans, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui le tonneau d'Éthanaïde est ouvert et que ça n'est pas 10 000 personnes mais c'est des centaines de milliers de personnes.
Rendez quand même hommage, Patrick Karam, à l'actuel pape qui a quand même bousculé les choses, et on en a beaucoup parlé.
Alors moi je rends hommage, je vous le dis, à tous ceux qui aujourd'hui au sein de l'Église se battent pour qu'il n'y ait pas d'omerta sur ce sujet, et parfois même au détriment même de leur carrière au sein de l'Église. Je veux rendre aussi à César ce qui est César, en disant que ça n'est pas seulement l'Église qui est touchée, c'est tous les milieux qui sont touchés. Oui, l'Église est touchée. Et les autres religions doivent aussi également faire leur propre introspection.
Georges Fenech, pardon, vous avez
la répétition,
été coupé.
C'est la plus
difficile avec Patrick Karam d'aller jusqu'au bout. Mais ce qu'il dit est très juste, au fond. Mais je pense, moi, je vous interroge aussi sur, interrogeons-nous sur le fait que l'Église se propose d'indemniser. Rien ne l'oblige, juridiquement. Celui qui doit réparation, c'est l'auteur des faits. L'Église n'est pas auteur des faits. Ce sont des membres, des individus, des prêtres bien déterminés qui, à l'intérieur de l'Église catholique, il n'y a pas de responsabilité ni pénale ni civile, à ma connaissance.
Dès lors qu'il y a, mais il y a une complicité, dès lors qu'il y a une connaissance par la hiérarchie.
Ça peut être une complicité individuelle, déterminée, définie par une enquête.
C'est couvert par toute la hiérarchie.
Je vous lis ce que dit justement à ce sujet Jean-Marc Sauvé dans l'interview. Il faut tout d'abord que l'Église catholique reconnaisse sa responsabilité dans les violences sexuelles. Elle ne peut pas considérer que tous les actes déviants commis par ces clercs étaient le fait de brebis galeuses.
En fait, c'est ça. Et tout le terme est là. Mais tout le terme est là, parce qu'au début, en effet, avant ce rapport, on se confortait, ou l'Église se confortait dans l'idée d'une brebis galeuse. C'est là où, sincèrement, je pense que l'utilisation du mot systémique et le débat quant à ce qualificatif sur ce sujet est important à poser, parce que ce serait révélateur. Et Jean-Marc Sauvé, même, dans une interview au journal La Vie, explique que c'est vraiment l'Église qui n'a pas su voir et entendre. Il dit pas certaines personnes, il dit que c'est l'Église qui n'a pas su voir et entendre les premières victimes. Et il dit d'ailleurs que ce rapport, c'est finalement l'histoire d'un naufrage d'une institution. Il utilise lui-même le terme de naufrage. Et quand on parle de l'après, il dit lui-même que ça fait des années qu'il y a une sorte de figure du prêtre qui est un peu glorifiée de façon excessive. Et ça, une fois de plus, ce n'est pas... Mais exactement, et ça, c'est lui qui dit, c'est l'auteur du rapport. Une fois de plus, c'est pour ça que je reviens tout à l'heure sur l'hystérisation du débat, dans le sens où on peut avoir tous les débats qu'on veut, et c'est sans doute très sain de les avoir. Gérald Darmanin peut convoquer ce monsieur, Éric Dupond-Moretti, avec toutes les questions même émotionnelles que ça peut provoquer dans l'idée de pousser la prescription, savoir qu'on va déclencher des enquêtes sans forcément aboutir à une véritable reconnaissance si les faits sont véritablement prescrits, avec une machine judiciaire immensément longue, immensément compliquée. Mais la solution et la question reste toujours la même, c'est comment va faire l'Église pour traiter ces problèmes de fond, pour qu'on soit sûr que ce rapport ait vraiment servi à quelque chose.
Isabelle Fernandez. Moi je suis tout à fait d'accord. Je pense que
vous
ça
êtes
pose.
Dans le partage, Isabelle.
Oui, je suis dans le partage, bien, comme au sein de l'Église.
Partage
d'ailleurs,
une opinion assez juste, ma foi.
Qui le prône. Non, mais oui, c'est important que l'Église quand même se pose des questions aussi sur la façon dont on voit bien. Là, ça se fait sur le secret, mais au-delà de ça, ces questions internes qui ont été posées par Jean-Marc Sauvé sur la place du prêtre, sur la place des laïcs, sur la place sur son fonctionnement, sur la façon dont on aborde aussi la ration. On voit bien que l'Église catholique, c'est pas nouveau, en dehors de ces faits très graves révélés, que les questions de la désertion des églises et de la pratique se font jour. C'est pas nouveau, c'est quelque chose qui se pose à l'église. C'est un sujet de plus, mais je crois que quand même, il y a une réforme. J'écoute le pape, je lis le pape régulièrement. Je trouve que le pape François, quand même, amène des
nouveau
choses.
Souffle.
Un nouveau souffle, qu'il faut qu'il soit entendu peut-être un peu plus et en pratique par l'église française, sûrement.
En tout cas, on se fait toujours l'écho sur Europe 1 de ce qu'annonce le pape.
Est-ce qu'on peut se faire un parallèle entre le prêtre
seul
et l'entraîneur? Parce que moi j'ai écrit un ouvrage sur le
Patrick
sport.
Arme.
L'entraîneur est une figure tutélaire, c'est-à-dire qu'il a plus d'autorité, il a une emprise sur les enfants, une emprise qui se révèle être supérieure à ce que l'enfant peut avoir, à la relation que l'enfant peut avoir avec les parents.
Mais
eh bien,
façon,
on est
loi,
dans le même.
La loi.
C'est
dans...
à Georges Fenech de vous interrompre.
La loi prévoit, non, mais je vais dans ce sens-là, prévoit des circonstances aggravantes, que
voilà,
ce soit
absolument.
Dès lors qu'il y a autorité, que ce soit le père, l'instituteur, le prêtre, le dirigeant sportif, dès lors qu'il y a ascendance autorité, il y a une circonstance aggravante. On peut le comparer.
Quand on parle d'emprise, il faut comprendre ce que ça signifie. Ça signifie que vous avez parfois des familles cathos, très cathos, qui confient leurs enfants à un prêtre, parce qu'ils ont confiance dans ce prêtre-là. Vous voyez? Et le sujet, et souvenez-vous de cette affaire où un prêtre, ça n'a rien à voir avec la pédophilie, mais il est allé en bateau avec des gamins, il y a eu des noyades, les parents ont refusé de déposer plainte. Parce que c'était ce prêtre, parce qu'il y avait confiance en lui, il y avait des relations particulières. Il y a ça, c'est que l'enfant, lui, n'ose pas dire. Et l'enfant se rend coupable des choses. Et quand il dit les choses, les parents ne le croient pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va rentrer dans un cycle de troubles, parfois qui peut aller jusqu'au suicide. Mais certains d'entre eux vont rentrer dans une amnésie. C'est le cas pour beaucoup d'entre eux. C'est documenté, ça. Hein. Vous allez regarder la littérature internationale dessus. C'est très documenté. En France, nous avons des travaux, peut-être pas sur l'Église, mais sur le reste.
C'est important sur la prescription.
Dont on parle.
Exactement, parce que les gens disent, mais pourquoi vous attendez? Alors, pourquoi est-ce que vous attendez si longtemps pour parler? Parce que...
Je vais vous répondre. Dans les études qui sont faites aux États-Unis, on voit que ça dure à peu près 30 ans. Vous voyez, c'est aussi ça le sujet. C'est-à-dire que là, c'est vrai qu'il y a eu
une prolongation
de la durée de prescription, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il
faudrait
le faire. Oui, je pense.
C'est possible ou pas d'abolir la.
Oui, c'est possible.
Cette question, elle revient de manière récurrente. Nous la sommes posée avec mon ex-collègue Alain Touré lorsqu'on a réformé le régime des prescriptions ensemble, puisqu'on a doublé les délais de prescription en matière criminelle de 10 à 20 ans et délictuelle de 3 à 6 ans. Beaucoup d'associations sont venues nous voir à l'Assemblée à l'époque pour nous dire qu'il faut rendre imprescriptibles ces délits, ces crimes commis sur des...
Qu'est-ce
sur
qui
des
empêche murs. C'est quoi le risque?
Vous savez, le problème de la prescription, c'est quoi? C'est au fond, passer une très longue période, il y a une déperdition des preuves, des témoignages, et on va faire revivre un traumatisme 40 ans, 50 ans plus tard, en sachant malheureusement qu'on n'y arrivera pas au bout du compte et que la victime va se retrouver à nouveau souffrante parce qu'on ne la reconnaîtra pas à nouveau lors d'un procès qui n'aboutira pas parce que les preuves ont disparu. Donc c'est cela, en fait, la prescription, c'est le problème, la disparition des preuves au bout d'un certain temps. Mais je reconnais que ce débat peut être posé. Et si vous allez dans d'autres pays, par exemple, la prescription n'existe pas, hein, que ce soit aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ou en Allemagne, on a aboli toute prescription.
On continue le débat justement sur ce point très très important de la prescription. Je vais y arriver avec Georges Fenech, Maxime Yedo, Isabelle Ferren et Patrick Karam qui, juste après la pause, va vous répondre.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Autour de la table, l'ancien magistrat Georges Fenech, l'essayiste Maxime Yedo, la députée Modem des Hauts-de-Seine Isabelle Floren et le vice-président de Libre Patrick Karam. Et évidemment, on est parti de cette déclaration de Monseigneur de Moulin Beaufort sur ce secret de la confession, interview qui est passée chez nos confrères de France Info mercredi et qui, depuis, n'arrête pas de susciter les réactions et notamment celle d'Éric Dupond-Moretti. Encore ce soir, l'interview va être diffusée en long sur LCI ce soir. Dans le droit, si un prêtre reçoit dans le cadre de la confession la connaissance de l'existence de faits qui se déroulent en ce moment, alors il a l'impérieuse obligation de mettre un terme à ces faits. Donc, il doit alerter sans quoi d'être condamné S'il ne le fait pas, ça s'appelle non-empêchement de crime ou de délit. On parlait juste avant la pause des délais qui doivent être... Il y a effectivement une prescription. Georges Fenech, vous disiez que ces prescriptions, vous aviez travaillé oui. là-dessus pour qu'elles soient rallongées, ces délais. Et on se demandait si on ne pouvait pas tout simplement abolir les délais.
Vous savez, la loi de février 2017 qui a réformé donc, les régimes de prescription, elle est partie du constat qu'on est passé depuis Napoléon, parce que les délais de prescription remontaient à Napoléon, au code napoléonien, on est passé d'une société de l'oubli à une société de la mémoire. Aujourd'hui, plus rien ne se perd. Et puis, par rapport à l'époque napoléonienne, l'espérance de vie a largement augmenté. Donc il fallait revoir tous ces délais de prescription, c'est pour ça qu'on les a doublés maintenant en matière criminelle. L'action publique, elle se prescrit au bout de 20 ans et non plus 10 ans. En matière délictuelle, 6 ans et non plus 3 ans. Et donc, la question est venue sur l'imprescriptibilité de certaines infractions. Fallait-il aller plus loin? Vous savez qu'il y a un seul crime qui est imprescriptible dans notre droit, c'est le crime contre l'humanité, qui s'est appliqué une fois à Lyon, précisément à l'occasion du procès Klaus Barbie. Et puis l'affaire Papon également. Mais qu'est-ce qui nous a retenu de le faire? C'est, je vous dis, la question du dépérissement des preuves. Parce que aller à... Parce que d'ores et déjà, on le sait, le législateur a augmenté avec des délais très spécifiques. Ce n'est pas 20 ans pour les agressions et les crimes contre les mineurs, c'est 30 ans.
Ouais.
Et le point de départ de la prescription n'est pas le jour de la commission des faits, mais le jour où le mineur est devenu majeur.
Donc à 18 ans.
À 18 ans. Donc vous voyez,
c'est 18 plus 30,
on peut jusqu'à 48 ans, ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà très important. Fallait-il supprimer tout délai de prescription? Nous étions convaincus, avec mon collègue à l'époque, que c'était la dernière loi, sans doute, sur la prescription, et qu'un jour nous finirons par abolir la prescription, comme l'ont fait d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, les Américains, les Allemands.
Ouais.
Est-ce que c'est souhaitable? Je ne peux pas vous dire, j'ai pas la réponse, parce qu'il y a la question du dépérissement des preuves, voyez-vous, et du nouveau traumatisme subi par une victime qui se verrait refuser le statut de victime 50 ans plus tard, et qui pourrait revivre à nouveau par manque de preuves,
un traumatisme.
Donc c'est une question qui est très difficile, mais qui mérite encore, sans doute, d'être débattue.
Patrick Caram, vous voulez répondre à Georges Fenech?
Oui, c'est pas parce que vous rendez un crime imprescriptible que les preuves vont s'effacer. Si vous n'avez pas des preuves au bout de 20 ans, au bout de 30 ans, vous avez le même problème, vous ne l'aurez pas plus au bout de 40 ans. Ce que je veux dire, c'est que le sujet, effectivement, de la preuve, c'est un autre sujet. Vous avez dit qu'il y a dans le droit français des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Je pense à l'esclavage, on a parlé des crimes nazis, la Shoah, etc. Il y a des crimes aujourd'hui qui sont dans notre droit positif et qui sont imprescriptibles.
Un seul. Le crime contre l'humanité.
Le crime contre le génocide.
Le crime contre l'humanité.
Alors, ce sont deux phénomènes un peu différents, voilà, et qui sont imprescriptibles. Moi, je considère qu'il faut donner un message, d'abord, un message de fermeté. N'allez pas jouer sur les délais. N'allez pas jouer sur les délais en vous disant que cette amnésie traumatique qui fait que la victime va oublier en moyenne 20 ans, 30 ans, parfois 40 ans, il va oublier ce qui est arrivé et va s'en souvenir, et quand il s'en souviendra, ce sera trop tard pour vous attaquer. N'allez pas jouer sur ça. Deuxième élément, moi j'ai écrit le livre noir du sport, voilà, et dans ce cadre-là, j'ai interrogé un certain nombre de victimes de violences sexuelles et de viols. Et je peux vous dire que celles qui ont atteint l'âge où elles ne peuvent plus déposer plainte le ressentent comme une souffrance. Elles se sont aperçues parce qu'elles ont rêvé de telle ou telle situation. Un matin, il y a telle chose, tel événement dans leur vie.
Elles veulent
pouvoir demander justice.
C'est ce qu'on disait à l'instant avec Georges Fenech.
C'est aussi nommer la personne. Ouais. C'est aussi la montrer du doigt. Ouais. C'est aussi l'emmener au tribunal. Après, elles sont conscientes qu'il y a un risque de ne pas être entendues parce qu'il y a le problème de la preuve. Mais
Maxime,
elles veulent pouvoir, c'est un peu la procédure du name and shame, elles veulent pouvoir le pointer du doigt cette personne.
Je pense qu'il y a tellement d'autres éléments à prendre en compte quand on parle de ces traumatismes-là. D'abord, évidemment, le traumatisme de la victime, la nécessité du temps qui passe parfois pour la réaliser, mais il y a aussi toute la toute la difficulté avant éventuellement d'en arriver jusqu'au procès, c'est-à-dire déjà la difficulté d'aller porter plainte, la façon dont ça se déroule quand on porte plainte, les quelques étapes, les rendez-vous avec le psychologue, des médecins. Non, mais c'est aussi à prendre en compte des médecins légaux, parfois, pour certifier, pour discuter.
Pour
non, mais est-ce tout ça est très traumatisant quand
c'est
même.
C'est vrai
pour
aussi pour les femmes majeures victimes de viol.
C'est pour ça que je prenais exactement.
Très pénible.
C'est pour ça, et je me permettais de faire ce parallèle en effet, parce qu'on en a tous, hélas, de plus en plus autour de nous qui en sont victimes. Et c'est un phénomène pour arriver jusque-là qui est très compliqué. Donc si on essaie de disséminer un espoir d'un procès qui n'arrivera peut-être jamais à cause du dépérissement des preuves, etc., ça peut s'ajouter comme étant un traumatisme de plus.
Mais pourquoi ne pas laisser le choix aux victimes ? Après, libre choix d'aller effectivement au bout de la procédure, quitte à avoir un traumatisme.
Mais je suis d'accord avec vous.
S'il n'y a pas la possibilité parce qu'il y a un délai à respecter, dans ce cas-là,
non, mais je suis d'accord avec vous. D'ailleurs,
vous souvenez qu'à l'occasion de l'affaire Duhamel, vous vous souvenez ?
Oui.
Elle s'est posé la question, parce que là, les prescriptions étaient acquises.
Ouais.
Et finalement, ça a choqué beaucoup de monde, effectivement.
Isabelle Florian.
Non, mais moi, je pense que quand même, toute cette vague tout à fait salutaire et nécessaire qui a été engendrée par notamment MeToo et la libération de la parole sur les agressions, les crimes sexuels, nous fait changer d'air, entre guillemets, dans aussi la façon d'appréhender la justice. Forcément, ce débat sur la prescription, on l'a eu il y a encore 6 mois à l'Assemblée nationale sur ces crimes, sur cette loi, sur la protection nouvelle des mineurs. Donc, on a allongé les délais, vous l'avez dit. Maintenant, effectivement, on a avancé sur cette prescription glissante qui permet, quand un acte est reproché à un auteur de fait qui était prescrit, de réouvrir finalement... la procédure, ce qui est une prescription glissante parce que un certain nombre d'élus, de parlementaires poussent sur ces sujets et c'est une bonne chose. C'est vrai que vous dites il y a de plus en plus d'affaires. Oui, il y a de plus en plus d'affaires parce qu'aussi ce gouvernement s'est saisi du sujet, en a fait une cause essentielle du mandat du président de la République. Je dis simplement que si nous agissons, si nous ouvrons des dépôts de plainte dans les hôpitaux, c'est qu'il y a une volonté derrière aussi politique qui doit se mettre en œuvre. Ça fait des années que des affaires existent. Il faut une volonté politique pour les démultiplier.
C'est le contexte international.
Il faut aussi
Le contexte international qui a joué le rôle de révélateur. Le MeToo a permis de secouer les léthargies. Parce que tous les gouvernements précédents... gouvernement Hollande,
Dans cette majorité, donné les moyens... pris les moyens donner à ces associations, à ces victimes, le moyen de porter plainte.
Bien sûr que c'est important de sanctionner, de réfléchir pour la prescription, mais il est non moins important de faire en sorte qu'il y ait une possibilité d'interrompre ces crimes et ces délits en développant un maximum de formation et de sensibilisation de tous ceux qui sont en contact avec les enfants et qui ne sont pas forcément formés pour cela, qui peuvent avoir des indices. Non, mais je pense, moi, dans les écoles, les dispensaires, les infirmières, les services sociaux, les assistantes sociales, tous ceux qui sont au contact des milieux familiaux, etc., d'avoir cette connaissance de ce qu'est un signe faible d'un enfant, parce que vous savez, la maltraitance psychologique ne se voit pas forcément comme une maltraitance physique quand il y a des traces de coups. Une agression sexuelle, ça laisse pas forcément des traces physiques. Par contre, il y a une souffrance psychologique qui est très importante et qu'il faut savoir déceler. Et ça, ça suppose des références, ça suppose des formations pour arriver à faire en sorte que le criminel soit repéré le plus vite possible, que l'enfant soit sorti des griffes, soit d'un instituteur, soit d'un... Vous voyez ce que je veux dire ?
Georges Fenac a parlé de signaux faibles. Donnons quelques exemples, comme ça les choses seront claires. On ne comprend pas ce que c'est. C'est très simple. Un enfant qui travaillait bien à l'école, qui était dans un cercle de camarades, tout allait bien, il était heureux, il rentrait à l'école. D'un seul coup, il ne veut plus aller à l'école.
Il
pleure sans raison. Il se met à faire des crises de nerfs à répétition. Il change de comportement, il s'enferme. Enfin, vous devez vous interroger. Ce sont des signaux faibles qui doivent vous alerter et pour lesquels vous devez avoir une réponse adaptée. Et j'invite les parents j'invite les parents à se faire accompagner par un psychologue. Parce que seul, la question est très, très difficile à aborder avec le gamin, avec aussi la question de la prise en compte de la parole. Imaginez le gamin vous dit, c'est ton frère qui a fait ça. Qu'est-ce que vous faites? Ou c'est ta sœur qui a fait ça? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Il doit absolument se faire accompagner par un psychologue qui travaille sur ces questions. Parce que tous ne sont pas formés dessus, mais les spécialistes de ces questions-là sauront être précis.
J'ose espérer qu'il y a quand même des dispositifs à l'heure actuelle.
Non, ils sont en train de mettre des dispositifs. Je pense par exemple au ministère des Sports. Une fois n'est pas coutume, je veux quand même rendre hommage à Mara Sinéanou, à la ministre des Sports, qui met en place aujourd'hui un véritable référentiel, qui met en place des formations précises et qui aujourd'hui a lancé un réseau de lanceurs d'alerte. Donc c'est important. Pourtant, on commence à lever l'omerta dans le sport parce qu'il y a 4 à 5 fois plus d'occurrences dans le sport qu'ailleurs.
Il y a eu des alertes d'anciennes sportives justement qui ont porté plainte.
Mais après MeToo, ça a été, il y avait déjà eu ces alertes. Mais après MeToo, c'est devenu une vague. Ouais. Et il y a eu une quantification de cette vague-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des associations qui sont spécialisées, qui travaillent dessus. L'idéal serait d'avoir des associations spécialisées, mais qui travaillent dans tous les secteurs. Ceux pour la religion, etc. C'est ça qu'il faut.
Maxime Yedo ?
Je pense aussi qu'on a en quelque sorte, je ne sais pas si le terme est approprié, la chance d'avoir connu cette dernière année une prolifération d'œuvres, qu'elles soient cinématographiques ou littéraires, de cas malheureux qui ont fait quand même toucher du doigt ou un public beaucoup plus large. Il y a eu le livre dont j'ai oublié le nom, hélas, de Vanessa...
Spinoza
Springora, etc. Il y a eu le film
sur Mats Neff.
Exactement. Il y a eu évidemment le livre de Camilla Kouchner sur la famille Duhamel. Il y a eu également un film d'Andrea Bescon qui a énormément fait parler justement sur les chatouilles, sur ce qu'était justement l'environnement clos, des parents au courant qui ne veulent pas justement.
Terrible film.
Aller. C'est pour ça. Mais qui est tellement révélateur. Il faut le voir, je pense, pour justement savoir saisir ce que c'est d'être au courant de ça. Et on peut quand même saluer ces quelques œuvres qui permettent parfois de prendre conscience de ces phénomènes. De ces phénomènes-là.
Et ben, même sur un sujet comme ça, voilà, et on finit sur des conseils de lecture et de cinéma. Effectivement, ça peut vous ouvrir les yeux, en tout cas si vous ne connaissez pas le côté terrifiant de ces affaires. On revient après le journal de 19h, on partira à Marseille. Marseille qui, pour le second jour consécutif, a rendu hommage à Bernard Tapie, hommage digne d'un chef d'État, d'un chanteur populaire, d'un international de foot. Le Tapie Show à Marseille le jour de ses obsèques. Et puis, dans un autre genre, Édouard Philippe, à quoi joue-t-il Édouard Philippe avec son parti, ses rassemblements? Y a-t-il concurrence ou loyauté avec Emmanuel Macron? Alors ni l'un ni l'autre. On en parle, restez avec nous cette Europe 1.
Europe Soir, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Les débats d'Europe Soir reviennent dans un instant, mais d'abord c'est le journal et j'accueille Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Pierre, bonjour, bonsoir à tous.
19h, merci d'être avec nous. Au son de We Are The Champions, le cercueil de Bernard Tapie a quitté la cathédrale de la Majore à Marseille, a rejoint sa dernière demeure, le cimetière de Mazargues. Reportage dès le début de ce journal.
La stupeur sur le campus de la prestigieuse école d'ingénieurs centrale Supélec. Une centaine d'élèves affirment avoir subi des violences sexuelles ou des viols. Le Nobel de la paix pour deux journalistes, une Philippine et un Russe, qui se battent pour la liberté de la presse. Et puis le foot, entraînement des Bleus dans une atmosphère studieuse à Turin. Ils affrontent l'Espagne dimanche en Ligue des Nations après leur superbe victoire hier soir contre les Diables Rouges.
La tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, passer les brouillards assez fréquents de la Normandie Hauts-de-France et les nuages bas de l'Auvergne aux vallées du Rhône, ce samedi s'annonce très très ensoleillé partout.
Merci, à tout à l'heure pour une météo complète. Le dernier voyage de Bernard Tapie, c'était aujourd'hui à Marseille, sa ville de cœur.
Oui, avec d'abord une messe en la cathédrale de la Majore, en présence de sa famille, de plusieurs politiques locaux, mais aussi de nombreux supporters de l'OM. Vous nous racontez cette journée forte en émotion, Stéphane Burgat.
Oui, alors que sonnent le glas et les cornes de brume des bateaux à quai, Bernard Tapie est attendu par de très nombreux Marseillais massés sur le parvis. À l'intérieur de cette majestueuse cathédrale du bord de mer, la famille Tapie, les anciens joueurs Éric Dimeco et Basile Boli, de vieilles connaissances politiques, prennent ensuite le micro, comme Renaud Muselier, le président de région.
Le ministre, le député, le battant, le winner incontesté, le gagnant permanent, celui qui risque tout et qui gagne presque à tous les coups.
Moment émouvant, son ami de 45 ans, Jean-Louis Borloo, salue le combat acharné contre la maladie, le gladiateur se repose enfin et lui dédie ce poème intemporel de Kipling.
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, tu seras un homme, mon fils, T'as été un homme, mon frère. À bientôt.
Dans la foule, l'émotion est palpable. Un moment hors du temps pour Gilbert.
Aujourd'hui, Marseille s'est arrêté. Marseille derrière le boss. Le plus bel hommage, c'est de voir tout ce monde autour de la cathédrale. Je trouve ça top. Vraiment, bravo, bravo à tous.
Au départ du convoi funéraire, la foule rend un tout dernier hommage à grand renfort de chants, d'écharpes tendues bien haut et de fumigènes.
C'est grandiose, c'est à l'image du bonhomme, voir autant de monde lui rendre un tel hommage. Je trouve ça complètement hallucinant, digne d'un chef d'État, voire même du pape, sans exagérer.
Le convoi avance au pas, entouré par la foule qui peine à se résoudre aux adieux. Et une fois parti, c'est un grand vide, un grand silence sur le parvis de la Major. Bernard Tapie repose désormais dans le calme d'un tout petit cimetière de quartier à l'autre bout de la ville.
Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1 et un avocat de Bernard Tapie ne risque pas d'oublier son passage à Marseille pour les obsèques. Il a été agressé par deux hommes hier soir alors qu'il rentrait à son hôtel près du Vieux-Port. Ils lui ont volé sa montre d'une valeur de 35 000 euros. Un coup de tonnerre au sein de la prestigieuse école d'ingénieurs centrale Supélec. L'étude souhaitée par la direction, menée auprès de plus de 2300 étudiants, montre qu'une centaine d'entre eux, garçons et filles, auraient été victimes de viols et d'agressions sexuelles l'an dernier. Marion Gauthier, vous êtes allée sur le campus de Gif-sur-Yvette, dans l'Essonne, où c'est la stupéfaction face à l'ampleur du phénomène.
Oui, les étudiants sont groggy ici, de petits groupes murmurent aux quatre coins du campus, se souviennent de ce mail reçu à 22h36 mercredi soir et des chiffres de l'enquête intolérables pour Antoine et Léa, émus. Ils avaient pourtant conscience de certaines agressions.
Un bisou volé, des personnes proches qui m'ont raconté avoir été victime d'harcèlement sexuel.
De voir les chiffres bruts comme ça, ça touche quoi.
La gravité des faits, 28 viols recensés, peut-être d'autres victimes restées silencieuses, de quoi désespérer Quentin ou Mathilde qui confie gêné un sentiment d'impuissance.
Un très gros choc. Je pense que c'est dû au fait qu'avec le Covid, on était beaucoup dans les soirées en résidence. On n'a pas eu des soirées officielles dans l'école où c'est peut-être plus encadré.
Quand je sortais à l'école, je me sentais plus en sécurité que quand je sortais sur Paris en extérieur. Et donc je me dis, en fait, l'école c'est pareil.
Toute une école éprouvée par cette découverte. Le directeur se dit aussi stupéfait et consterné. L'association France Victimes a été mobilisée pour accompagner ceux qui souhaiteraient parler.
S'il y a une plainte qui est déposée, l'école se portera automatiquement partie civile, même si ça doit remettre en cause son image. Et cette transparence me paraît importante parce que c'est une façon de dire à des agresseurs potentiels « ne comptez pas sur l'école pour dissimuler les choses ».
Romain Soubéran, le directeur de Centrale Supélec, qui a commandé cette étude pour progresser dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et je peux vous dire que c'est l'espoir de tous les étudiants que j'ai rencontrés aujourd'hui.
Merci Marion Gauthier sur le campus de Centrale Supélec pour Europe 1. Coup de filet antidrogue en région parisienne et à Rouen. Et parmi les 19 personnes arrêtées, la maire socialiste de Canteleu, en Seine-Maritime, ainsi qu'un de ses adjoints, ils pourraient avoir couvert les agissements des trafiquants. Les perquisitions ont notamment permis de mettre la main sur des armes de guerre, au moins 300 000 euros en liquide et une quinzaine de kilos d'héroïne.
Emmanuel Macron au sommet Afrique-France à Montpellier. Face à lui, pas un seul chef d'État, mais de jeunes Africains.
Le président voulait un dialogue sans filtre avec ses jeunes, eh bien, il n'a pas été déçu, Benjamin Péter.
Oui, le dialogue a été franc, à l'image de ce que souhaitait cette jeune femme venue du Mali, qui se souvenait enfant d'avoir dû applaudir le passage d'un président français à Bamako.
Moi, petite fille qui était au bord du goudron en train d'applaudir, me retrouve aujourd'hui en face du président français pour lui dire ce qui ne va pas. Oui, c'est historique.
Nous payons le prix de la colonisation tous les jours, l'a interpellé une journaliste kenyane. Et pour cette jeune burkinabé, il est temps d'assainir les relations entre la France et l'Afrique.
Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Je vous invite à la recurer. Si vous voulez quand même préparer là-dedans, nous ne mangerons pas, l'Afrique ne mangera plus.
Emmanuel Macron est à l'aise, il répond du tac au tac. Pour lui, il faut assumer le passé, mais sans tomber dans la repentance.
Je ne voudrais pas non plus que vous vous mettiez à me reprocher tout ce que les autres ont pu faire ou font à côté, mais que j'ai décidé de ne plus faire moi. J'aurais le même sentiment d'injustice que vous. Il faut laver la marmite. Mais c'est pas vrai qu'on oubliera le passé et ses blessures. Et donc, il faut les assumer.
Et le président a annoncé la création d'un fonds d'innovation démocratique indépendant pour soutenir des initiatives qui vont dans le sens de l'alternance démocratique. Et sur le plan culturel, la restitution de 26 œuvres au Bénin dans les prochaines semaines.
Benjamin Péter à Montpellier pour Europe 1.
objectif d'Emmanuel Macron, construire une équipe de France de l'écologie.
Ah, c'est l'objectif surtout du Vert, Yannick Jadot, candidat à la présidentielle. Il est à Lyon aujourd'hui, un déplacement sur le thème de la précarité énergétique. À ses côtés, les autres écologistes qui ont participé à la primaire, histoire de montrer que les rancœurs, c'est du passé, Jean-Luc Bougeon, et que la campagne commence bel et bien.
Oui, pour cela, rien de tel qu'une jolie photo de famille, les adversaires d'hier côte à côte, tout sourire. Delphine Bateau, Éric Piolle, Sandrine Rousseau et au centre, le candidat Yannick Jadot.
Franchement, ça a de la gueule, non? Ça, c'est une belle équipe. Ça, c'est une belle équipe de France de l'écologie.
Tout le monde travaille donc désormais main dans la main. Sandrine Rousseau, finaliste de la primaire, et qui avait juste après indiqué qu'elle soutiendrait sous condition Yannick Jadot, devrait prendre la tête du comité politique de l'équipe de campagne. L'heure n'est donc plus aux états d'âme, mais au collectif.
C'est la condition pour gagner. L'écologie, c'est un écosystème. Et les différentes espèces, finalement, se complètent pour aller bien plus haut. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces moments où je me disais que la radicalité devait être absolument présente. Aujourd'hui, en tous les cas, il n'y a pas de conflit. L'intérêt, c'est que l'écologie arrive à l'Élysée.
Et Yannick Jadot ne dit pas autre chose.
Il n'y avait pas d'adversaire dans une primaire. Il n'y a que des approches différentes, des personnalités différentes, mais rassemblées autour d'un seul projet, qui est cette écologie sociale, innovante, républicaine que nous portons.
L'équipe de campagne devrait donc être dévoilée très prochainement. Éric Piolle et Delphine Bateau devraient aussi faire partie du casting. Une obligation d'unité pour les Verts dont le candidat n'est crédité que de 6% dans les dernières intentions de vote.
Jean-Luc Bougeon à Lyon pour Europe 1.
19h08, vous ne bougez pas. Dans un instant, c'est la réponse sur Europe 1 du ministre de l'Éducation à Éric Zemmour, qui, rappelons-le, a qualifié de criminel la circulaire sur les enfants transgenres à l'école. Il était jusqu'à comparer Jean-Michel Blanquer au docteur Joseph Mengele. A tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
19h11, la suite du journal d'Hélène Zeleny et la contre-attaque de Jean-Michel Blanquer, invité exceptionnel d'Europe 1 à mi-journée dans La France Bouge.
Et oui, Pierre, contre-attaque après les propos d'Éric Zemmour également sur Europe 1, c'était avant-hier. Il comparait le ministre de l'Éducation au médecin Nazim Mengele à propos de la circulaire sur les enfants transgenres.
Si un enfant vient dire « Ah ben non, je suis pas une fille, je suis un garçon », on doit admettre son nouveau prénom. Et puis quoi encore? Vous savez, c'est vraiment criminel. La vérité, c'est que qu'est-ce qu'on va faire après? On va bloquer par des piqûres la puberté de ces enfants pour qu'ils décident après quel est leur genre. Mais vous rendez compte, on est vraiment dans le docteur Mengele, quoi.
Écoutez la réponse de Jean-Michel Blanquer.
La comparaison ne mérite même pas une réponse, tellement elle est absurde et dégradante pour celui qui la formule. Mais surtout, on voit bien qu'il est entré en campagne et que, du coup, la caricature et le mensonge ne les feraient pas. Ce qu'il a dit est totalement faux sur cette circulaire. Le sujet n'est pas d'avoir une course à l'identité sexuelle. Le sujet, c'est que tout le monde se sente égal et bien dans un établissement scolaire. Donc il suffit de lire cette circulaire pour comprendre que M. Zemmour a dit n'importe quoi. Simplement, ça enflamme les esprits, ça divise la société pour rien, mais en tout cas, je pense qu'on doit éviter dans cette campagne de rentrer dans ce genre de polémiques qui finalement sont très malsaines parce que on fait croire aux gens des choses qui n'existent pas. Encore une fois, sa méthode, on la voit bien là. Elle consiste à pointer un problème qui existe bel et bien, hein, des dérives qui existent ailleurs, je suis le premier à le dire, mais de faire comme si c'était ce que nous faisions et comme si c'était une réalité générale. Et ça, c'est évidemment très dangereux.
Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, invité de La France Bouge sur Europe 1 depuis Poitiers.
Ils sont deux à se partager le prix Nobel de la paix. Deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov.
Et leur point commun, c'est vraiment de défendre la liberté de la presse, Arthur Pereira.
Oui, en 120 ans d'existence, c'est la première fois que le prix Nobel récompense la liberté d'expression. Et donc les deux journalistes d'investigation, Dimitri Muratov et Maria Ressa, la journaliste philippine de 58 ans, s'est illustrée par ses articles en dénonçant la violence de la campagne antidrogue menée par le président Rodrigo Duterte dans son pays. Quelques heures après sa récompense, la journaliste a rappelé l'importance d'une information indépendante.
Je suppose que cela montre simplement que le comité du prix Nobel de la paix s'est rendu compte qu'un monde sans faits signifie un monde sans vérité et sans confiance.
Le Nobel de la paix récompense aussi Dimitri Muratov, rédacteur en chef du journal Novaya Gazeta.
Effectivement, cet homme de 59 ans est à la tête de l'un des seuls journaux indépendants de Russie, Novaya Gazeta, un journal qui dénonce les affaires de corruption, de violence et de fraude électorale. 6 de ses journalistes ont été assassinés ces dernières années et parmi eux, Anna Politkovskaya, tuée il y a 15 ans. Dimitri Muratov a dédié son prix à, je cite, « tous ceux qui sont morts en défendant le droit des gens à la liberté d'expression ». Il a aussi rajouté qu'il aurait remis cette distinction à Alexei Navalny, l'opposant historique de Vladimir Poutine.
Merci Arthur Pereira, le Kremlin pousse ce soir le cynisme jusqu'à le féliciter pour ce prix, saluant son courage et son talent. L'ambiance est tendue entre la Pologne et l'Union européenne. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, s'engage à faire respecter les principes fondateurs de l'Union. Elle se dit profondément préoccupée par la décision de la Cour constitutionnelle polonaise, qui estime que plusieurs articles des traités européens sont incompatibles avec la constitution du pays.
On passe au foot et les Bleus se préparent pour leur finale de la Ligue des Nations.
Ça sera dimanche contre l'Espagne. La victoire d'hier face aux Belges restera dans les mémoires avec son incroyable retournement de situation et le score final 3-2. Cyril de la Morinerie, vous venez d'assister à l'entraînement de l'équipe de France. On imagine que l'ambiance est plutôt sereine.
Oui, j'ai vu des sourires, hein, Hélène, lors de cet entraînement qui s'est déroulé dans l'autre enceinte, hein, de la ville, le stade olympique, là où évolue le Torino. On a même entendu quelques cris, des applaudissements lors des exercices réalisés par les remplaçants. Karim Benzema et Kylian Mbappé, hein, n'ont pas participé à cette séance. Probablement sont-ils restés aux soins avec les kinés. Quant aux titulaires, ils se sont contentés de faire du vélo, de trottiner, de faire du gainage sur un tapis comme Raphaël Varane. Et Antoine Griezmann, le numéro 7 des Bleus, qui s'est exprimé en conférence de presse il y a quelques minutes. Cette victoire face à la Belgique est sans doute un match fondateur. En tout cas, il rappelle ce succès des Bleus face à l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2018, explique Antoine Griezmann.
C'est un peu les mêmes émotions, un match un peu fou. Après, ça nous confirmait, mais c'est vrai que ça nous a fait du bien mentalement et de revenir à un score à 2-0 et de montrer qu'on pouvait gagner contre n'importe quelle équipe.
Voilà, des Bleus très ambitieux mais pas euphoriques, hein. D'ailleurs, tout à l'heure, Didier Deschamps a discuté de nombreuses minutes avec le capitaine Hugo Lloris sur la pelouse. On a vu le sélectionneur faire des gestes démonstratifs. Les Français ont bien conscience que l'Espagne est un redoutable adversaire. Mais on va courir, on va faire plus, assure Antoine Griezmann, qui fêtera dimanche à Milan pour cette finale, sa 100e sélection.
Voilà, ambitieux mais pas euphorique les Bleus. Cyril de la Morinerie, merci, vous étiez en direct de Turin. Rendez-vous donc dimanche soir sur Europe 1. Le coup d'envoi, c'est à 20h45. France-Espagne à suivre en direct et en intégralité.
Merci ma chère Hélène Zélani pour ce journal. La météo, Valérie Darmon, vous nous annoncez un très beau samedi.
Et oui, les tendances qui se confirment, les conditions anticycloniques qui persistent sur tout l'Hexagone. Par endroits, il faut juste patienter un petit peu pour voir le soleil prendre le pouvoir. Ce sera le cas du côté de la Normandie et du Nord-Pas-de-Calais, ainsi que sur la Franche-Comté, le nord des Alpes, l'Auvergne, parce que les bancs de nuages bas, de brume, de brouillard, y seront particulièrement fréquents, notamment au lever du jour, avant de se dissiper en cours de matinée, pour laisser place à de très très belles éclaircies, presque un parfait ciel bleu l'après-midi. En soirée tout de même, de la Bretagne vers la Normandie, et jusque sur les Hauts-de-France, les brouillards qui vont se reformer, hein, de nouveau en toute fin de journée.
Et la douceur, elle persiste.
Alors pour le lever du jour, bien sûr, le thermomètre affiche 6 à 10 degrés en général, autour de 14 sur le pourtour méditerranéen. Mais dans l'après-midi, bien sûr, les maximales qui vont atteindre 16 à 21 degrés en général et 22 à 24 sur les bords de la Grande Bleue.
Merci Valérie Darmon, 19h17. Dans une poignée de secondes, on revient avec les débats d'Europe Soir. On reviendra à Marseille, justement, avec ses obsèques grandeur XXXXL pour Bernard Tapie. Et puis on se demandera ce que fait Édouard Philippe. Tiens, à tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et je suis bien entouré jusqu'à 20h avec Patrick Karam, le vice-président de Libre, vice-président de la région Île-de-France, avec Isabelle Florenne, députée Modem des Hauts-de-Seine, avec l'essayiste et journaliste Maxime Liédo et l'ancien magistrat Georges Fenech. Ça, c'est l'orgue de la Major, la cathédrale de Marseille, qui joue et qui accompagne le public venu en masse faire un dernier salut à Bernard Tapie sur la musique de We Are The Champions, ce tube des Queen, qui a donc eu lieu en sortie de messe. En hommage à Bernard Tapie, justement, à la cathédrale, la Major, des milliers de personnes rassemblées, des caméras de télévision partout, jusqu'à l'intérieur de l'église, où ont été prononcés les hommages, comme celui de Jean-Louis Borloo.
Tu aurais peut-être aimé être maire de Marseille, pour continuer à servir les Marseillais. Tu voulais ouvrir les cœurs, unir les Marseillais pour bâtir ensemble une ville puissante, généreuse, tolérante, ouverte sur la mer et ancrée en Provence. Une armée de petits hommes en gris invisibles t'en ont empêché. Alors tu n'as pas été maire de Marseille, tu as été Marseille.
Hommage également de Renaud Muselier.
Les Marseillaises et les Marseillais t'ont adopté. Marseille te va si bien. Et comme Marseille, Tu n'as jamais laissé personne indifférent. Tu étais un homme singulier, qui se déclinait au pluriel. Tu étais un homme d'origine modeste, qui a construit son immense destin. Nous t'avons tous vu évoluer. Tu as marqué au moins 3 générations de Français.
La famille aussi, avec son petit-fils Rodolphe.
Adieu Daddy. Tu es chez toi maintenant, ici, à Marseille, chez moi, chez nous. Et avec Hugo, nous irons t'embrasser tous les samedis et te conter les exploits de notre cher club, celui que t'as propulsé au toit de l'Europe, un soir de 26 mai 93, et qui reste à ce jour le seul et unique en France, l'Olympique de Marseille. À jamais dans mon cœur, Daddy, à jamais le meilleur, et tu seras quoi qu'il arrive, à jamais le premier.
Voilà donc des hommages, on a choisi ceux-là, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu l'hommage de toute la ville de Marseille. Et comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, avant de prendre l'antenne à 18h, on a eu, je ne sais pas combien, 3 heures de cérémonie, 2h30, quelque chose comme ça. Toutes les chaînes d'information ont diffusé non-stop cette cérémonie. On n'est ni dans un hommage national, on n'est ni dans un hommage militaire. Je pose la question, et peut-être que je vais recevoir d'ailleurs des coups de fil de la famille Tapie en disant vous êtes épouvantable en disant ça, mais est-ce qu'on n'en a pas fait un peu trop, Georges Fenech?
Écoutez, je crois que... Moi j'ai suivi la messe, je trouvais très, très émouvante, hein, bien sûr. Les Marseillais ont panthéonisé Bernard Tapie. Mmh. Il y avait droit. Il n'aura pas eu droit aux Invalides. Mais il a eu droit à un hommage absolument...
Pourquoi il a eu droit ?
À Marseille ?
Pourquoi est-ce qu'il a eu droit à ce que vous dites, une panthéonisation ? C'est plutôt joliment dit d'ailleurs.
Parce que, à l'image de ce qu'a été cet homme unique, son genre, extraordinaire, eh bien ses obsèques sont à son image. Mais avec, moi ce que je retiens, c'est ses supporters quoi, dans le stade... Vélodrome.
Ouais, hier.
À la fois la tristesse, le visage grave au moment où le cercueil rentre sur la pelouse, et puis un moment de liesse pour rappeler ces victoires, cette victoire exceptionnelle à la Champions League qu'a remporté Marseille, et seulement Marseille d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel et ça valait bien toutes les cérémonies, pardonnez-moi, aux Invalides, quoi.
Et ça valait bien.
Il a eu la reconnaissance.
Ça valait bien 3 heures d'antenne sur les chaînes d'information.
Il a eu la reconnaissance du petit peuple, du peuple, quoi. Mm. C'est ça qui était extraordinaire pour Bernard Tapie. Est-ce que ça valait autant ? Sans doute. Moi, je trouve qu'on ne l'a pas trop fait. Il y a eu cette messe à Saint-Germain, elle avait sa justification.
D'ailleurs, on en parle, hein, donc j'en fais moi-même. Hein.
Oui, et il y a eu cet hommage au Vélodrome, bien sûr, et puis la messe d'enterrement à Marseille, qui était devenue sa ville. Voilà, est-ce que les médias en ont fait trop ? Mais on en a toujours fait trop avec Bernard Tapie. Et après sa mort, ça continue. Mais
Sens du terme, vous voulez dire, on en a fait
trop,
c'est ça ?
Oui, je pense. Et je pense que ça lui a coûté très cher aussi, cette très très forte médiatisation, vous savez. À un certain moment, quand on est trop exposé, il faut s'attendre quelquefois
après, vous savez,
à des retours.
Vous connaissez l'adage, c'est il n'est pas obligé de venir quand on l'invite.
Oui, mais je pense qu'il
d'ailleurs,
a...
D'ailleurs, il s'en va assez souvent.
Hein, oui, il a bâti...
Non, mais là, il s'en est allé, il n'a pas demandé...
Il s'en est allé, je crois, avec...
J'ai été témoin, moi, lors d'une matinale, lorsqu'il s'est levé, il est parti du studio.
Avec beaucoup d'empathie de l'ensemble des Français dans son combat contre la maladie. Quoi. C'est ça qui a touché tous les Français au fond d'eux-mêmes. Et il a été...
Vous avez raison.
Voilà, je pense que c'est ça aussi.
Je pense qu'on a tendance à panthéoniser les morts. On a tendance à tout pardonner, à ne leur trouver que des qualités. Vous avez des ennemis qui défilent, tous ceux qui lui ont craché dessus, etc., qui viennent dire « Ah, l'homme merveilleux que c'était », etc. Ok, ça, c'est notre tendance française. Malgré tout, pourquoi il n'y aurait pas droit ? Mais pourquoi il n'y aurait pas droit ? Voilà un gosse du 20e, il est fils de... Son père est ouvrier, fraiseur. Bon, à l'époque, c'était le sommet de la classe ouvrière. Sa mère, aide-soignante, il part de rien. C'est un sans-dent pour Hollande. C'est un rien pour Macron, il part de rien. Et voilà, il a tout fait. Homme d'affaires, navigateur, couvreur, coureur automobile, chanteur, acteur, manager sportif, animateur. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Tapie ? Et qu'est-ce qu'il n'a pas réussi ? Regardez où conduit l'Olympique de Marseille. Et Bernard Hinault, posé à Bernard Hinault. Ce que je veux dire, c'est que on a, si vous voulez, cette reconnaissance du petit peuple qui est méritée, et on a en même temps de cette espèce d'intelligentsia française. Pardonnez-moi, moi je suis pas dans cette intelligentsia, moi aussi je viens de la base. On a cette idée que, ben finalement, d'abord c'est il vient de rien, c'est un homme d'affaires, donc il y a une sorte de parfum de scandale, d'opportunisme, procès en opportunisme derrière tout ça. Moi, ça me rappelle les frères Goncourt. Il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut encore se le faire pardonner. Tapie a passé le reste de sa vie à se le faire pardonner avec des procédures judiciaires au cul.
Maxime Hidalgo, on n'en fait jamais trop pour les gens qui ont suscité de l'admiration comme lui, qui ont suscité des vocations, qui ont suscité des envies. Je suis marqué de voir parfois autour de moi des gens qui ont le même, ou des amis qui ont le même âge que moi, qui sont admiratifs de Tapie, de certaines séquences, de certaines de ses idées, de ce qu'il a réussi à faire avec l'OM. Donc quand on a des parcours inspirants comme ça, quand on a des figures françaises comme ça, même parfois avec des travers, des zones d'ombre, je pense que c'est pas démérité d'en faire autant. Quand il inspire encore des jeunes, quand il est cité en exemple dans certains domaines, je pense que l'admiration même est un peu trop rare dans ce pays pour ne pas qu'on la glorifie de temps en temps.
Même s'il est, pour reprendre le titre d'un film, avec un autre qui a disparu il n'y a pas très longtemps, il est un peu Bernard Tapie, c'est un peu Flic ou Voyou. Quoi.
Mais c'est ce qui fascine aussi. C'est ce qui fascine aussi les générations. Mais d'ailleurs, c'est souvent comme ça. Les grandes icônes, quand elles partent, c'est quand elles ont toujours joué à un moment ou à un autre sur les deux versants.
Isabelle Florenne.
Oui, c'est un hommage, je trouve, populaire à son image. C'était un homme populaire.
C'était un homme XXL, donc un hommage XXL.
Oui. Non, mais ça me choque pas. Mais ce que je dois dire, c'est qu'effectivement, sa maladie et son combat pour la maladie, à la fin, j'appartiens à un mouvement. Et François Bayrou, qui l'a beaucoup critiqué, qui s'est violemment opposé à lui dans les affaires financières, l'arbitrage et autres, s'est rapproché finalement de lui et nous en parler régulièrement ces dernières années de combat. Et je trouve que voilà, cette image qu'il laisse et cet hommage aussi pour toutes ces années où on l'a entendu, il a été eu énorme reconnaissance. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, ces dernières prises de parole pour les soignants qui l'ont entouré et pour les gens qui l'ont entouré durant toute son épreuve.
Et puis la découverte de Dieu. On parle des dieux de catholiques, mais en réalité, il s'est rapproché des évangéliques. J'ai vu un pasteur évangélique et qui m'a dit qu'il a eu à avoir des dialogues de conversion avec Tapie sur l'évangélisme. Ça, c'est inattendu venant de ce personnage.
Eh bien voilà, c'était votre hommage à vous quatre, à Bernard Tapie, dont les obsèques ont eu lieu aujourd'hui. 19h29, dans une poignée de secondes, on revient et on parle de toute autre chose. Édouard Philippe, à tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table, Georges Fenech, l'ancien magistrat Georges Fenech, l'essayiste Maxime Hidalgo, Isabelle Florenne, députée MoDem, et vice-président de la région Île-de-France, Patrick Caram. C'est donc demain. Demain, qu'Édouard Philippe lance son parti, demain samedi, en fin de matinée, au Havre, bien sûr. L'ex-premier ministre a donné rendez-vous à ses soutiens au Carré des Dogues, dans la cité portuaire. Le programme indique une plénière pour une nouvelle offre politique qui sera suivie d'un discours. Il n'y a pas de nom pour l'instant, on n'a pas le logo non plus du parti. On comprend bien sûr que La République En Marche regarde tout ça avec un œil circonspect. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette nouvelle étape dans la marche assez lente, il faut le dire, d'Édouard Philippe?
Édouard Philippe fait ce qu'il a très bien appris d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il fait du en même temps. En même temps, je dis que je soutiens le chef de l'État et en même temps, j'essaie de me faire un dessin national. Et puis, il va aussi empiéter sur des terrains où la droite a un tout petit peu disparu. C'est-à-dire que quand, à l'extrême droite, elle se fait déborder par Éric Zemmour avec plein de sujets qu'il s'approprie, et de l'autre, une rigueur ou des thèmes de droite comme la rigueur budgétaire, la nécessité d'avoir des comptes absolument nickel, une peur du déficit. Bon, ben, Édouard Philippe, il donne une interview dans le Challenge et il donne des chiffres. Il dit que la France, elle est en mauvaise voie sur cette pente-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait politique, il fait le politique. Et pour l'instant, il le fait plutôt très bien.
Isabelle Florenne?
Oui, il y a un espace pour lui et puis surtout il y a un espace de discussion, comme vous le disiez, sur les thématiques qui ne sont plus dans les propositions de la droite depuis des mois, voire des années maintenant. Donc il a une place intéressante, il soutient, et ça c'est une bonne chose, je peux pas me dire le contraire, appartenant à la majorité, qu'il affiche clairement sa loyauté.
Clairement.
Et ce soutien, bah oui, clairement.
C'est pour ça qu'il n'en touche pas un mot dans le Challenge, d'ailleurs.
Et après, suite, les spéculations sur ses ambitions, il est bien normal qu'un homme politique de son âge, qui a eu son parcours, qui a fait ce choix et qui a eu ce destin déjà d'avoir été quand même Premier ministre et de l'ambition. Et c'est bien d'avoir de l'ambition pour cette majorité et pour la suite, pour porter la candidature du président de la République. Après, nous, ce qui nous intéresse...
Ça a l'air limpide pour vous.
Non, mais ce qui nous intéresse...
Enfin, pour Bayrou, ça n'a pas l'air aussi limpide que ça.
Ce qui nous intéresse, oui, bon, enfin, François Bayrou dit des choses, c'est pas si limpide pour plein de gens, mais moi, je dis, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de structurer un espace central.
Isabelle Florent voit le verre à moitié plein.
Bah écoutez, en tout cas j'essaye de composer et dans ce milieu politique c'est peut-être une qualité de savoir composer, je le trouve en tout cas. Et cette structuration de l'espace central que nous souhaitons nécessite aussi d'avoir des alliances avec des personnes avec qui on pourra discuter. Et Édouard Philippe en fera partie, je n'en doute pas.
Point taken comme on dit en anglais. Patrick Carab.
Édouard Philippe a fait un coup remarquable. La semaine dernière, grand rassemblement du Parti En Marche, grande messe, on le fait parler, sa vidéo passe parce qu'il ne vient pas, et il a un autre agenda, et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il soutient le président de la République, bien évidemment, oui, oui. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Ben, je vous invite à venir chez moi, parce qu'on lui dit, je lance mon propre parti. Ouais. Et là, stupeur. Et on s'est dit, mais qui a laissé passer cette vidéo? Ça a été un coup de tonnerre. Parce qu'en fait, le coup d'Édouard Philippe à quoi il joue, on l'entend depuis 2017-2018. Vous prenez des journaux, faites une revue de presse, mettez à quoi joue Édouard Philippe et vous verrez le nombre d'articles, d'occurrences sur les macronistes qui s'interrogent sur la loyauté, la fidélité à Édouard Philippe. Vous verrez aussi la concurrence avec Bayrou. Bayrou, aujourd'hui, ne décolère pas. Bayrou, vous savez, votre responsable de parti, votre chef de parti.
Il s'appelle pas Bayrou.
Non, Bayrou, c'est l'autre.
Qui est votre opposant à la région. Faut pas confondre, monsieur Carras. Oui, c'est pas la même chose.
Vous l'avez compris, d'ailleurs, vous l'avez bien décodé.
Non, mais j'ai corrigé.
Bayrou, aujourd'hui, ne comprend pas son positionnement. D'ailleurs, elle ne le comprenait pas hier, elle ne le comprend toujours pas aujourd'hui. Et ils sont en frontal. Lui, Édouard Philippe, considère qu'il ne va pas se chamailler avec Bayrou, qui a déjà fait son temps. Lui se projette sur l'avenir. Il parie sur l'après-Macron. Et le vrai sujet, c'est, et je vous le dis, hein, parce qu'il y a effectivement la droite coincée entre Zemmour, mais je crois que Zemmour, ça va être un sujet pour la droite. Vraiment pas pour la droite, plutôt pour le parti de Marine Le Pen. C'est plutôt là son gras, son bout de gras, où il ira chercher ses électeurs. Mais lui va être un vrai danger. Pour les Républicains.
Non,
je
ne
suis pas d'accord. C'est quand même un vrai problème pour la droite, Zemmour. Vous ne pouvez pas dire
est-ce
ça,
que je peux finir
Carin.
Finissons
je vous
sur lui.
Et on va parler depuis le début de l'émission. Hein,
et on va reparler de ça. On va reparler de ça. Moi, je considère effectivement que pour les Républicains comme pour le centre, ils risquent, si jamais Macron devait gagner l'élection, on ne sait jamais, mais pour moi, c'est Valérie Pécresse, mais si jamais Macron... par un malentendu de l'histoire, gagne encore cette élection, moi je peux vous dire, vous aurez toute une série d'élus de centre-droit, même de centre-gauche, même de droite, qui vont rejoindre l'offre politique d'Édouard Philippe, parce qu'il est très populaire. Et vous savez, Paris, je vous donne juste cette anecdote-là, à Paris.
Maxime Hidalgo lève les yeux au ciel et soupire.
Lorsqu'à Paris, on a parlé d'un candidat de la droite contre Macron, tous à droite disaient pitié pourvu que Macron n'envoie pas Édouard Philippe parce que le match est plié. Voilà, c'est la petite anecdote que j'entendais et que j'ai entendu les années passées. Hein, Paris, c'est aussi parfois la France.
Il y a peut-être deux éléments à apporter qui apportent
ça.
Attendez, comparez pas Hidalgo et quand même Jacques Chirac. Ce que je veux dire, c'est qu'il était capable de gagner Paris, alors qu'il n'est pas parisien, il est capable de s'imposer partout. Et il fait peur à Macron. La vérité, c'est qu'il fait peur à Macron. D'ailleurs, Macron a essayé de le lier.
L'idée, c'était pas de comparer...
Macron a essayé de le lier en disant « Investis-toi dans mon parti ». Et lui, il a dit, ben non, je prends au mot le président de la République.
Laissez parler Maxime Hidalgo avant qu'il s'endorme, parce qu'il est très malade.
Non, pas du tout, non. Mais
il y a deux éléments. Il ne viendra pas chez toi ce soir, il est trop malade.
Non, mais c'est les longues prises de parole, comme ça, ça me perturbe.
Ou le rhum dans votre potion magique.
Plaignez-vous.
Je pense qu'il y a deux éléments quand même à apporter pour nuancer ça. Certainement, la popularité extravagante d'Édouard Philippe tient au fait qu'il soit justement assez fidèle à Emmanuel Macron. Donc ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose, c'est quand même de rappeler qu'Édouard Philippe est très populaire, il comprend la France, il est formidable, oui, enfin, il comprend tellement la France que c'est lui qui a mis en place la taxe carbone et les 80 km/h qu'ont provoqué les gilets jaunes, et qu'il est capable de parler dans son interview de Challenge de compréhension du ras-le-bol fiscal français. Et la retraite à points. Non, mais donc vous voyez, il est quand même à l'origine de tous les gros points noirs du quinquennat. Donc quand il dit oh là là, il est extraordinaire, il comprend les Français, puis c'est vraiment oh là là l'homme providentiel que tout le monde attend, je pense quand même que ça demande un minimum de nuances et de regard sur le passé, notamment d'il y a 2-3 ans.
C'est le fameux en même temps dont vous parlez. J'ai pas entendu Georges Fenech sur le sujet d'Edouard Philippe.
Ouais, j'avoue que ce débat, moi, je trouve compliqué, très subtil. J'essaie de comprendre cette nouvelle offre politique d'Edouard Philippe. C'est parce que ce que j'en ai lu des quelques indiscrétions, il voudrait déjà, pour les prochaines élections législatives, présenter ses propres candidats. Mmh. Moi, je demande à voir comment les campagnes vont se dérouler entre les macronistes et les philippistes. Parce que quand même, Edouard Philippe ne doit sa légitimité qu'au fait d'avoir été nommé par Emmanuel Macron.
Il y a des ententes entre les partis. Entre les partis, c'est vieux comme le monde.
Oui, mais alors ça veut dire qu'il ne se retrouve pas chez les macronistes, chez les marcheurs. Pour fonder un parti, c'est que quelque part, il ne s'y retrouve pas.
Eh ben oui, il n'est pas avec les marcheurs, ni avec le MoDem.
Il va créer une nouvelle droite.
Ça, c'est clair.
Je pense qu'il doit, je ne sais pas, mais on ne peut pas non plus être dans la tête des uns et des autres, mais effectivement, il doit penser à l'après-Macron. Imaginons par exemple qu'Emmanuel Macron ne remporte pas les législatives. Peut-être vise-t-il la présidence de l'Assemblée nationale avec un groupe politique assez consistant. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il se projette sur...
On le dit de plus en plus, hein, le perchoir.
Ouais, il se projette manifestement sur 2027 davantage, puisque Macron ne pourra pas se représenter une troisième fois. Voilà, il y a de l'ambition personnelle. Il y a aussi le fait qu'effectivement, il est populaire au moment où il part. Une popularité étrange, effectivement. Mais bon, c'est sa démarche, c'est son ambition personnelle.
On va envisager les différents scénarios possibles juste après une nouvelle pause. Et on revient avec Georges Fenech, Maxime Yedo, Isabelle Fleuren et Patrick Caram. À tout de suite, c'est Europe 1.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Avec Georges Fenech, avec Maxime Yedo, avec Isabelle Fleuren et Patrick Caram. Que fait Edouard Philippe ? Alors, on va envisager quand même plusieurs hypothèses. Et d'ailleurs, peut-être, les amis, il y a peut-être les deux hypothèses à envisager. C'est hypothèse 1, Emmanuel Macron est réélu. Hypothèse 2, Emmanuel Macron n'est pas réélu. C'est peut-être ça. Il faut peut-être commencer par là, non, Georges Fenech ?
Oui, mais Philippe ne sera pas élu, puisqu'il ne va pas se présenter.
Oui, mais Georges Fenech, c'est vous. Édouard Philippe, c'est lui. Édouard Philippe, il fait quoi si Emmanuel Macron n'est pas réélu ? Est-ce qu'il continue avec son parti qu'il a formé ? Comment il fait ? Il rentre dans quoi ? Dans une opposition ou pas, d'ailleurs ? Quelle est la possibilité pour lui ?
Reste à savoir qui sera élu, d'abord. Pour savoir si on est dans une majorité, une opposition. Si c'est Xavier Bertrand qui est élu président de la République.
Ou Valérie Pécresse.
Ou Éric Zemmour.
Ou Valérie Pécresse.
Aucun des trois, ça marche bien.
T'as tout à fait raison, Patrick, Valérie Pécresse. Quel sera alors l'espace politique d'une opposition d'Edouard Philippe qui a travaillé toute sa carrière politique avec eux ? Je rappelle qu'il était directeur de cabinet d'Alain Juppé. Moi, je l'ai connu à cette époque-là. Qu'il a donc présidé aux destinées du RPR au plus haut niveau. Et qu'il a fait partie de la dernière majorité, et tout à coup, il nous a lâchés.
Bon.
Voilà. Alors, si.
Est-ce qu'il y a encore des marcheurs ?
Si les Républicains retrouvent.
Est-ce qu'il y a encore la République en marche ? Si Emmanuel Macron n'est pas réélu ?
Est-ce qu'il y a
encore la République
non,
en marche ?
Non, je ne crois pas que le parti existe vraiment. Moi, c'est mon sentiment.
C'est ça. Il ne tient que par
le président de la République. Si le président de la République n'est pas élu, déjà que le parti a du mal à exister dans les élections locales, on l'a bien vu au régional dernièrement. Je ne vois pas comment il pourrait survivre à une défaite d'Emmanuel Macron. Et donc, il va y avoir un espace qui va s'ouvrir. Qui va récupérer le mouvement, quand même, ce mouvement qu'il a lancé ? Et Edouard Philippe doit se dire qu'effectivement, il peut être celui-ci qui récupère, effectivement, les anciens députés macronistes qui se verraient ripollinisés, en quelque sorte, philippistes.
C'est difficile, hein, l'hypothèse sans Macron. Isabelle Fleuren, je vous vois dépitée.
Non, pas dépitée. Non, mais il faut envisager toutes les hypothèses. Et bon, après,
c'est comme
se bat
si on privait Patrick Caram de Valérie Pécresse.
Quoi. Mais quand on se bat pour...
Ça, c'est sûr, mais avec un peu plus de socle pour
Valérie. Pour des idées, on a envie qu'elle gagne et qu'elle regagne et de continuer. Donc évidemment, je suis assez d'accord. Là, il faut aussi structurer ces pas que les centristes, c'est quand je dis centrale, c'est-à-dire on a les idées, on est un certain nombre à les promouvoir et un certain nombre de partis à les promouvoir depuis un certain nombre d'années sans les avoir finalement structurées dans un rassemblement. Donc c'est un petit peu le travail qu'on essaye de faire en ce moment. C'est pas si simple, mais cette offre politique centrale, libérale, sociale qu'a créé Emmanuel Macron en arrivant en 2017, elle doit maintenant perdurer dans le temps.
Elle doit.
Et se structurer dans le temps.
L'obligation.
Je pense qu'Édouard Philippe a une vocation à y participer, à travailler, et on peut travailler ensemble. Je parle d'une nouvelle génération aussi, qui génération de
travailler
députés.
Travailler ensemble dans quel sens? Parce que ça, c'est l'hypothèse.
Travailler.
L'hypothèse qui revient, effectivement, c'est si Emmanuel Macron est réélu, ce serait un nouveau parti.
Absolument.
Qui peut-être travaillerait en duo avec la Macronie actuelle. Comment est-ce que ça pourrait...
C'est pour moi, c'est La République En Marche et pour François Bayrou, le MoDem, qui doivent structurer et être fondateurs d'un rassemblement, mais qui a vocation à être bien plus large, et notamment à s'ouvrir à un centre droit ou à une droite modérée qui est, pour le moment...
Et donc qui annihilerait la droite actuelle, la droite de gouvernement
qui
est à peine...
Je ne peux pas présager de ce que sera... l'élection présidentielle, non. Mais on voit très bien que la droite actuelle est débordée d'un côté par Éric Zemmour, qui prend une partie de cet électorat, qu'on le veuille ou non, il ne prend pas qu'aux extrêmes pour être actuellement à la hauteur dont il est, où il est, à laquelle il est dans les sondages, il ne prend pas qu'aux extrêmes, les analyses le montrent, il prend à une partie de la droite.
Alors là, on est parti de l'hypothèse qu'Emmanuel Macron gagne l'élection,
on est là-dessus.
Eh bien moi, je vais vous dire, je vous prédis oula, une guerre de partis. Pourquoi? Bon, vous avez déjà le Parti En Marche, avec un certain nombre de parlementaires. Vous avez le MoDem et François Bayrou, cette fois-ci, Roux, a bien négocié son beefsteak. Il a bien placé... écoutez, on est dans un marchandage. Combien de parlementaires, combien de députés tu m'autorises à avoir? Il a bien négocié avec Emmanuel Macron. Sauf que là, vous avez Agir. Agir qui existe. Et aujourd'hui, vous avez le parti, on ne connaît pas encore le nom de ce parti-là, mais le parti d'Édouard Philippe qui va finalement chasser sur les terres d'Agir.
Ouais,
parce que c'est ça
fait.
Le sujet.
Ouais.
Mais qui va aussi chasser sur les terres.
Vous avez vu les déclarations d'Olivier Becht, le président du groupe parlementaire?
Qui va aussi chasser.
Vous l'avez lu?
Le président du groupe Agir.
Absolument.
Mais qui dit quoi?
Il dit que lui a vocation à continuer son groupe et à structurer l'offre d'Agir et se met dans une certaine opposition avec Édouard Philippe.
Comme chez vous,
non, mais
comme Bayrou.
C'est intéressant de voir que finalement Olivier Becht se retrouve un petit peu coincé par rapport à la nouvelle offre.
Continuons. J'ai pas fini l'offre.
Il y a combien de centres finalement?
Sont encore très mouvantes.
Mais il y a beaucoup de centres, je trouve.
Pardon, il y a beaucoup
de centres. Il y a beaucoup de centres.
Beaucoup de droite.
Entre Agir, le MoDem, Philippe, attention.
Et c'est pas fini. Parce que là, il y a un clan qui s'est créé au sein du gouvernement avec notamment les deux socs, Darmanin, Le Cornu, les deux ministres les plus politiques de ce gouvernement-là, les plus fins, les plus subtils de ce gouvernement. Leur objectif, c'est d'aller finaliser le dépeçage des Républicains. Donc vous voyez bien qu'il y aura des tendances à l'intérieur du parti macroniste, mais aussi à l'extérieur du parti macroniste. Et le vrai enjeu pour tout ce petit monde, c'est quoi? Le vrai enjeu, c'est d'avoir, de compter aux législatives et donc d'avoir le maximum de députés. Donc, quelle va être la position du président de la République?
La question est posée.
Va-t-il accepter d'être minoritaire à l'Assemblée nationale, être minoritaire avec des majorités fractionnées? Toute la question.
Il faut essayer, je pense, d'essayer de voir ces présidentielles à l'aune des idées, c'est-à-dire quelles idées parlent à quel électeur. On sait qu'Édouard Philippe va plutôt aller sur le terrain d'une droite assez classique, qui s'inquiète de l'état de la France, de ses déficits, et il va même peut-être aller galoper sur le terrain d'une droite Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, qui endort quelques propositions sur l'immigration, sur la caisse sécurité, ne propose pas grand-chose sur l'éducation, sur l'écologie, sur l'avenir, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, tout va se diviser entre, en quelque sorte, l'électorat qui était précédemment les électeurs de de gauche et qui sont aujourd'hui finalement les électeurs de Marine Le Pen, c'est-à-dire un électorat qui n'est pas celui d'Emmanuel Macron, CSP plus grande ville, qui est un électorat plus de peu diplômés, n'habitant pas dans les grandes villes, c'est-à-dire en quelque sorte la
population. La France des territoires, comme on dit aujourd'hui.
Exactement, mais plus la France sous nos yeux, l'archipel français de Jérôme Fourquet, les deux livres qui se font suite, c'est-à-dire que qui va réussir à parler à cette France-là qui n'a pas voté pour Emmanuel Macron, qui vote Marine Le Pen, mais dont le vote Marine Le Pen est divisé entre Éric Zemmour et une certaine partie de la droite, c'est-à-dire celle qui a vécu de plein fouet la crise sanitaire, qui se sent aujourd'hui en panne de représentation ou en panne de gens qui la représentent, qui souffrent de leur pouvoir d'achat ou qui ne le voient pas augmenter, qui souffrent de la hausse du prix de l'énergie. Bref, cette France dont on n'entend pas finalement beaucoup, beaucoup parler et dont les gens ont l'impression de se dire qu'ils sont oubliés en permanence.
Enfin, juste un mot quand même, je veux rectifier ce que vous dites. Vous êtes là victime de clichés quand vous dites la droite, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse.
Elle est combien dans les sondages, Valérie Pécresse ?
Qui ne parle pas d'éducation, d'écologie. Je rappelle qu'un euro sur deux aujourd'hui, voté au Conseil régional, va sur le problème de
le
programme de transition écologique. Et elle a déployé un vrai programme, et sur l'écologie, et
c'est
sur l'éducation.
France.
Donc, pardon de
elle
ne pas...
Elle fait 10% dans les sondages. Oui,
pardon de ne pas, mais nous verrons demain. Juste sur ce que... Ce que vous déployez là, moi je pense honnêtement que nous sommes dans un terrain vraiment extrêmement mouvant et dont les frontières ne sont pas déterminées et vont se définir en marchant. Je veux dire que si le président de la République, le président de la République emporte une victoire éclatante, extrêmement large, quel que soit le candidat, et si les Français lui donnent une majorité, et là c'est pas sûr,
alors
parce que vous avez deux mois entre l'élection, et ça c'est problématique.
S'il gagne.
Alors, s'il gagne, ouais, et qu'il le gagne, et qu'il a une majorité très forte, ouais, effectivement, il pourrait peut-être contenter toutes ces parties, tous ces mouvances qui vont, parce que les uns et les autres vont réclamer leur dû. Darmanin et Le Cornu vont dire, c'est grâce à moi, je veux tant de députés. Vous aurez évidemment Édouard Philippe qui va réclamer sa part de
Qu'est-ce
député.
Qu'est-ce que vous dites, Georges Fenech?
Bayrou aussi. Donc là-dessus, vous aurez un combat de chef. Et nous verrons ce que ça donne.
En 30 secondes, moi je crois qu'on assiste encore à un mouvement des plaques tectoniques depuis 2017, que le paysage politique français n'arrête pas de se fissurer, d'essayer de se reconstruire, et que l'avenir nous dira effectivement ce qu'il en sera. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt, parce que vraiment, le paysage politique s'est tellement fracturé, tellement depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, entre la gauche, la droite, où sont-elles, que tout est possible demain. Tout est vraiment possible. Mais n'oubliez pas la grande règle qui s'est vérifiée toute la Ve République. Un président élu
a toujours une majorité.
Et il obtient sa majorité
là,
deux mois plus tard. C'est ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron.
Mais bien, ça nous donnera l'occasion de refaire
un débat. Voilà.
Mais vous reviendrez et vous êtes les bienvenus. Georges Fenech, Maxime Yedo, Isabelle Florenne et Patrick Caram.